السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chers sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité d'être présents aujourd'hui, comme Cheikh Imdadullah l'a rappelé, ça va aller inshallah. Comme Cheikh Imdadullah l'a rappelé, alhamdulillah, Allah musta'an plutôt que de dire alhamdulillah. Nous remercions Allah également, mais en même temps nos cœurs sont attristés. C'est le dernier dimanche de ce mois de Ramadan. Enfin, le terme dimanche est anecdotique, mais on va dire que ce sont là les derniers jours du mois béni de Ramadan. Et la grande question qu'on doit se poser, c'est où est-ce qu'on en est sur le plan spirituel? Quel est mon parcours jusqu'à présent dans ma recherche de la taqwa? Est-ce que les objectifs du jeûne, est-ce que les objectifs du Ramadan sont atteints? Est-ce que j'ai développé les qualités du jeûneur? Est-ce que j'ai pu réellement demander taouba à Allah Azza wa Jal pour mes péchés? Est-ce que j'ai pu augmenter mon quota de bonnes actions? Est-ce que j'ai fait l'intention, le niya? Est-ce que j'ai fait l'intention à partir de cet instant de rester éloigné définitivement, inshallah, des péchés qui faisaient partie de mes mauvaises habitudes avant le Ramadan? Ikhwani akhawati fillah, c'est vraiment le moment de se remettre en question. Lorsqu'on vit les derniers jours, c'est vraiment l'occasion par excellence de faire une petite rétrospective des 25-26 jours qu'on a déjà passés et de voir comment est-ce qu'on va aborder les quelques jours qui restent, et surtout quelle sera notre sortie de ce mois de Ramadan, comment est-ce que nous allons entreprendre la vie après le Ramadan. Mes chers frères et sœurs en islam, jusqu'à ce jour, alhamdulillah, donc on est le 25e Ramadan, on a pu accomplir nos salats en jamaat, on a pu accomplir le tahajjud qiyamul layl, on a pu accomplir pas mal de ibadah, d'actes d'adoration. On a des frères qui sont en itikaf, on a des personnes qui sont, mashallah, dévouées pour la lecture du Coran, d'autres qui passent plus de temps de l'istighfar, de l'édouan. D'une manière générale, chaque croyant, chaque mu'min augmente son quota de a'mal saliha, son quota de bonnes actions durant ce mois béni. Et chaque croyant également fait le maximum d'efforts pour arrêter les péchés. Et ça, c'est un... Subhanallah, c'est un ta'zim qu'Allah a mis dans le cœur de chaque croyant, que lorsque le mois de Ramadan s'approche et lorsque nous vivons les mois bénis du Ramadan, quel que soit le niveau de pratique de la religion, et Allah seul peut juger, quel que soit le niveau de pratique de la religion, chaque croyant, chaque personne qui se reconnaît comme musulman, il ressent son attachement pour le dîn et son appartenance à la Ummah. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et de ce fait, il prend des résolutions, il adopte un mode de vie qui est celui du croyant. On ne trouvera pas une personne durant ce mois béni qui va en boîte de nuit, qui va boire de l'alcool, ou qui va fumer du zamal, ou qui va sortir avec une fille, qui va faire l'adultère. En général, on met tous ses péchés sur pause parce qu'on sait qu'on est dans un mois béni. On ne trouvera pas non plus une personne qui a l'heure des prières en train de dormir, en train de rater sa salat, parce que les gens viennent et on voit les masajids sont remplis, mashallah, parce que chaque croyant a intégré l'importance du mois béni. Donc là, aujourd'hui, nous sommes porteurs d'une lumière. Au moment où on parle, après 25 jours de jeûne, après autant de ibadah qu'on a cité et plus encore, nous sommes porteurs d'un nour, d'une lumière. Et à ce moment présent, nous devons remercier Allah Azza wa Jal. Nashkuruhu, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous a donné la possibilité de faire ces bonnes actions. Et là, il nous reste deux dates importantes. Bon, il nous reste encore, alhamdoulilah, 4 jours au moins de Ramadan, mais il nous reste, au plus, il nous reste 2 nuits impaires. Il nous reste le 27e, donc ce sera demain soir, et il nous reste le 29e. Et nous devons faire le maximum d'efforts, le maximum de a'mal saliha, parce que c'est un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam stipule que les actions les plus importantes sont celles qui sont accomplies à la fin. A'mal, innamal a'mal bil khawatim. C'est à la fin qu'on est vraiment évalué. Donc les actions les plus importantes, ce seront celles que nous allons accomplir dans les derniers jours du mois de Ramadan. C'est un ulama, rahimahumullah. J'explique que si une personne a passé les 20 premiers jours du Ramadan dans l'insouciance et que dans la dernière décade, cette personne s'active pour faire de bonnes actions, on va dire que c'est une situation positive. Mieux en tout cas que celui qui a passé les 20 premiers jours de Ramadan à fond dans la masjid en faisant de bonnes œuvres et qui dans la dernière décade s'est laissé aller, dit ça c'est une situation négative. Maintenant, l'idéal, c'est la personne qui a fait 20 premiers jours de l'obéissance d'Allah Azzawajal, et la dernière décade, la personne augmente son quota de bonnes actions. On va dire ça, c'est nourun ala nour. Il faut que nous soyons cette personne. Et non pas celle qui se relâche à la fin. Non pas la personne qui se dit que voilà, là, j'entrevois le Eid. Je pense déjà au Eid. Je pense déjà à mes vêtements de Eid, à mes chaussures de Eid, aux cadeaux que je vais donner pour les enfants. Je pense déjà à quel rasoir je vais acheter pour enlever cette barbe de 26 jours. Je pense déjà à la femme, elle dit quel vêtement je vais mettre, quel degré de décolleté ou quel brushing je vais faire. Je prends déjà mon rendez-vous chez la coiffeuse pour avoir une belle coiffure le jour du Eid. Alors que pendant 25 jours, mashallah, elle sortait avec son châle. Alors que le monsieur, pendant 25 jours, il gardait la sunna d'Al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit faire extrêmement attention. On ne doit pas entrer dans une optique de retour à la vie, entre guillemets, normale. Et j'aime pas le terme vie normale, plutôt on va dire vie anormale. Salam alaykoum. Les chefs de Paris sont présents, mashallah. Donc on ne doit pas être dans cette optique de retour à une vie, parce qu'il n'y a pas une vie avant Ramadan et une vie après Ramadan. Il y a un Ramadan qui est une école, la'allakum tattaqoun, mashallah. Jeune marié de Saint-Denis aussi, qui est la Jabir. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ça, c'est des gens du Nord et qui viennent plus au programme de Saint-Denis. Et on les retrouve à Saint-Pierre. Ça, c'est inacceptable, ça. Khair, inshallah. Est-ce que l'objectif du Ramadan, la'allakum tattaqoun, est-ce que je l'ai vécu? Est-ce que je suis en train de le développer? Ou je suis dans une optique de sortie du Ramadan et un retour à la vie normale? Ça, ce serait une réaction extrêmement désolante. Donc ça concerne chaque mu'min. Chaque individu doit analyser quel est mon état d'esprit maintenant. Là, il n'y a pas besoin d'un cheikh spirituel, il n'y a pas besoin d'un prêtre, il n'y a pas besoin d'un alim, il n'y a besoin de rien. C'est que nous-mêmes, c'est entre moi et moi. Entre moi, mon âme, mon cœur. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Quel est mon état d'esprit? Quelle est ma relation avec Allah Azza wa Jal? Quelle est ma relation avec mes péchés antérieurs? Ma dépendance plutôt avec mes péchés antérieurs? Et comment est-ce que j'entrevois l'après Ramadan? Parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Au moment où on parle, chaque personne a déjà une niya ferme de sa tête. Parce que le niya, l'intention ferme, c'est celle qu'on peut entendre de son cœur. On peut entendre de son cœur. C'est celle qui est zahir, qui est apparente. Celui qui a pris l'intention ferme, la résolution d'arrêter ses péchés, il a déjà formulé l'intention de son cœur. Il sait, ses oreilles ont entendu ce que son cœur a pensé. Il sait déjà. Si par exemple, son problème, c'était qu'il est sorti avec les amis, il rentrait tard. Même si c'était pas pour aller dans les endroits haram, il rentrait 1h, 2h du matin, et qu'après il ratait Fajr le dimanche matin, par exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres, et qu'il a dit, bon maintenant c'est fini, je me couche tôt, j'essaie de garder le rythme de 5 namaz en jamaat et tout. Mais celui qui a fait cette intention là, c'est bon, c'est déjà vahil, c'est apparent, c'est une intention, un niya qu'il a déjà fait. Mais celui qui met en stand-by, c'est mauvais. Celui qui dit, je dis rien, c'est que intérieurement, il veut pas. Il veut pas formuler la bonne intention. Il veut pas faire le niyat istiqama. C'est juste qu'il a transité par une période où il doit être carré sur la religion et qu'après, malheureusement, Allahu a'lam, il a peut-être l'intention de revenir vers une vie d'avant, une vie normale, pour reprendre ensuite un Ramadan 1437, 2016. Mais qui est-ce qui lui donne la garantie? Et surtout, qui donne la garantie que son tawbah a été accepté? C'est pas le sujet. Mais vous savez pertinemment que lorsqu'on demande pardon à Allah Azza wa Jal, une des conditions c'est an-nadam. On écoutait Cheikh Mohamed hier qui était avec nous à Saint-Denis avec nos jeunes, et il nous rappelait que an-nadam min at-tawba, que les remords, les regrets, ça fait partie déjà du tawba. À partir du moment où tu regrettes tes péchés, tu as déjà commencé à demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et les savants expliquent que an-nadam, les remords, c'est quelque chose qui... Ça sort d'où ça? Est-ce que c'est avec les mains? C'est avec l'argent? C'est avec les pieds? C'est avec quoi? C'est dans le cœur. Ça fait partie des actions du cœur. Et on ne trompe pas le cœur. Je peux vous tromper, moi, avec mes faits et gestes. Avec ma grande barbe, mon kamis, c'est mon oud, qui coûte je ne sais pas combien. Je peux vous faire croire que je suis un grand cher. Il peut dire que mon œil publie des trucs sur Internet. Mais je peux être le pire munafiq parmi vous. Je peux vous faire croire ce que je veux. Et c'est ça le nifaq, qu'Allah nous protège. C'est ça l'ostentation. C'est ça le sum'a, shuhra, riya. Les trois catégories d'ostentation. Mais le cœur, on ne trompe pas son cœur. Quand le cœur a émis une intention, c'est haq, c'est ça. Et on ne peut pas tromper son cœur. Donc, si dans le cœur, la personne, en demandant tawbah, par exemple, hier c'était 25e, Allah accepte nos ibadahs de hier soir, inshallah. Et si en demandant pardon à Allah Azza wa Jal, intérieurement, on n'était pas persuadé, on n'avait pas pris la résolution ferme. Mais quand je dis ferme, c'est le terme en arabe qui s'appelle al-azm. Et al-azm, c'est tu as pris l'intention, il n'y a pas un pourcentage de ballottement favorable ou défavorable, peut-être oui, peut-être non, du tout. Tu as l'intention de le faire et tu prends les précautions qui vont avec. de ne plus retourner vers tel péché. Ça peut être l'abandon de Namaz Fajr le dimanche, ça peut être le fait de ne pas faire Namaz en Jamaat, en congrégation d'une manière générale, ça peut être pour une dame par exemple la tenue vestimentaire, ou une sœur qui, alhamdoulilah, à Saint-Denis on voit ça, mashallah, et ça fait plaisir, toutes les commerçantes qui sont autour du centre-ville, ben, le mois de Ramadan, on les voit en sortant de leur magasin, elles mettent un châle sur la tête. On va dire qu'alhamdoulilah, c'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, quand on demande tawba pour nos péchés, est-ce que on a émis l'intention ferme de rester dans les bonnes actions? Là, de ce cas, on peut avoir la garantie que le tawba est accepté. Parce que pour que le tawba soit accepté, il faut regretter le péché. Premièrement, al-nadam. Et ensuite, al-azm. L'intention ferme de ne plus retourner. Là, c'est les conditions du tawba tu nasuha. Et le tawba est accepté par Allah Azza wa Jal. Mais si dès le départ, je demande pardon, mais c'est que ma langue qui demande pardon. Si le cœur ne suit pas, il n'y a rien qui avance. Et c'est pareil dans toutes les actions. Si le cœur n'y est pas, les actions, les membres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il n'y aura pas de réalité. Il n'y aura pas de haqiqa à travers cette action. Donc si je demande pardon avec ma langue, mais que intérieurement, je sais pertinemment que le 2 Shawwal, en plus, Eid, ce sera quoi cette année? Ce sera un samedi, non? Ici, alhamdoulilah, on regarde la lune avec nos yeux, d'accord? Et donc, Eid, ce sera un samedi. Si j'ai déjà l'intention samedi, bon, encore un peu gros, samedi, le soir, il mange chez belle-mère, il mange chez grand-mère. Mais si quelqu'un a déjà l'intention samedi soir, il doit retourner en boîte de nuit avec ses amis, il peut demander autant de pardon le 25e, hein? Et Allah est le seul juge. Je suis pas là pour dire c'est accepté ou non. Mais à partir du moment où l'intention n'y est pas, la résolution, la personne n'a pas fait la résolution, le azm d'abandonner le péché définitivement, les conditions du tawbatul nasuha ne sont pas réunies. Et avec ça, fa'aliha faqis, par analogie, analyser n'importe quel autre péché. Et je veux dire que le tawban, il y a des gens qui se disent que oui, mais il est trop facile. Toute l'année, on fait l'imbécile, et quand Ramzan nous lève la main, on pleure, on demande, et Allah il pardonne, après on reprend. Deux choses. Premièrement, Allah est capable de te pardonner. On verra dans une des sifats d'Allah Azza wa Jal, Allah il est ghafour, ghaffar, il fait afou également, il pardonne. Et deuxième chose, le tawbah n'est pas quelque chose d'aussi simple. Hein, parce que pour que le tawbah soit accepté, comme on a dit, il y a des conditions. Et les conditions, ce n'est pas des conditions que tu peux faire avec tes membres, avec ta langue. Il ne suffit pas de demander mille fois « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ». Même le Sayyidul Istighfar, le meilleur des Istighfar, il ne suffit pas de le lire pendant toute une nuit impaire. Il faut tout d'abord le cœur soit persuadé. Quand le cœur est sincère, là le tawbah est accepté par Allah Azza wa Jal. Donc le tawbah n'est pas une question simple, ce n'est pas une mas'ala facile. Il faut qu'on est convaincu, il faut qu'on soit sincère, et là Allah Azza wa Jal va pardonner les péchés, qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de prendre ce chemin et d'être ferme de notre cœur. On élimine les péchés et on prend les précautions pour être plus retenu. Parce qu'ikhwan ya khawati fillah, la pire des choses, ce serait de revenir à une vie de péché après le Ramadan. Ça, ce serait khassar, ce serait la pire des choses, et ce serait un signe de non-acceptation des bonnes actions aussi. Je ne veux pas miner le moral des Français, on a les politiciens qui sont là, ils assurent. Je ne veux pas miner le moral des croyants par contre, en disant que l'action est acceptée ou pas acceptée, ça ne nous appartient pas non plus. Mais nous on se base sur des hadiths qui prouvent quand est-ce que le tawbah est accepté, on a vu. Maintenant, hadith qui prouve, des textes qui prouvent que la bonne action est acceptée, c'est que quand une période de bonne action est terminée, Allah te donne tawfiq de continuer de faire d'autres bonnes actions. Si après la période, entre guillemets, faste, tu t'arrêtes complètement et tu retournes vers les péchés, Allahu a'lam. Comme une personne qui vient au hajj, qui est haram sharif du matin jusqu'au soir, et qui lapide les stèles, il fait tout ce qu'il faut, et qu'au retour, la personne revient vers une vie de jahiliya, d'ignorance, on ne juge pas, mais il y a des alamat. Et après, Allah seul est juge. Il y a des signes. Et Allah yarhamur rahimin. Allah est clément miséricordieux. Heureusement qu'Allah ne nous juge pas uniquement sur nos actions, et qu'Allah est clément. Autrement, il n'y a pas une personne ici qui pourra encore se prosterner. Personne. Alim ou non alim. On n'aurait même pas les sifat et qualités pour avoir cet honneur, ce izzah, de poser notre front devant Allah Azza wa Jal, parce que tout ça c'est une question de tawfiq min Allah. Donc, ikhwani fillah, il faut être sincère envers soi-même. Être sincère envers Allah pour les a'mal saliha, et être sincère envers soi-même. On doit savoir exactement qu'est-ce qu'on fait. Et chaque personne sait exactement, au moment où on parle, quel est son niveau spirituel et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Et c'est ce qui est déterminant. Ce petit morceau de futur anticipé, là, ben, il va gérer mon présent de l'indicatif. Cette intention de « j'ai l'intention de bien faire » ou « j'ai pas l'intention de bien faire », ben ça va paramétrer mon état actuel. Soit ton tawbah est accepté parce que tu as une bonne intention, soit Allah Wallahu alam, parce que tu as déjà l'intention de retourner vers le péché, et en finalité, tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, qu'est-ce que nous devons demander à Allah? Il reste 25e et 27e, et bien sûr, les nuits pères aussi, qui sont aussi importantes. Nous devons demander tout d'abord qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte. Al-Qaboul, Rabbana taqabbal minna. Le plus important, c'est qu'Allah accepte les bonnes actions que nous avons cumulées. Nous savons les récompenses énormes qu'il y a dans le mois de Ramadan. Aham shay, c'est qu'Allah accepte les efforts que nous avons accomplis. La deuxième chose, nous devons demander à Allah Azza wa Jal al-istiqama. Quand on lève les mains, on demande dua, quand on lève les mains, qu'on lève pas les mains, peu importe. Quand on demande à Allah Azza wa Jal les invocations, les duas, on doit surtout demander, Ya Allah, accepte-moi pour rester ferme dans ta religion. Oh Allah, accepte-moi comme ton serviteur pieux. Oh Allah, fais-moi entrer parmi les ibadika salihin. Et non pas ceux qui font les bonnes actions uniquement durant le Ramadan et qui retournent vers les péchés. Demandez à Allah Azza wa Jal al-istiqama. Parce que al-istiqama, ça ne dépend pas d'Ibrahim, de Nour, de Riyad, de Ismail ou de Irfan. Ça ne dépend pas de l'istiqama. Ça, c'est tawfiq min Allah. Tout est une question d'acceptation de la part d'Allah Azza wa Jal. Et Allah va t'accepter en fonction de ta sincérité, en fonction des efforts que tu vas faire, des mujahadas. Et puis Allah seul le sait. Les règles, c'est Allah qui les maîtrise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut demander à Allah de nous garder dans le droit chemin. On demande à Allah d'accepter, Rabbana taqabbal minna, et on demande à Allah Azza wa Jal de donner istiqama pour les bonnes actions, et istiqama également dans l'éloignement contre les péché, dans l'éloignement contre tout ce qui est haram. On doit demander également à Allah Azza wa Jal, ça c'est un doigt extrêmement important, mais ça on va dire c'est un doigt vraiment de haut niveau spirituel, mais on doit le faire parce que c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de l'islam des choses qui sont réservées à des tops, quelqu'un, une élite, et d'autres qui sont réservées aux croyants en âme. D'ailleurs, pas tout ça. C'est des doigts que nous devons tous demander. Nous devons demander à Allah Azza wa Jal de nous donner cette qualité qui est de ressentir la douceur de la foi. Halawatul iman. La douceur de la foi, c'est un état spirituel qui nous amènera directement vers le ihsan. Le ihsan, je pense qu'on en a parlé, subhanallah, tous les dimanches. Parce que le ihsan, c'est l'aboutissement de la taqwa. Quand on arrive à une situation, à un état spirituel, on a muraqabatullah en permanence. Muraqabatullah dans le sens shari'i, dans le sens où on a la pensée d'Allah en permanence. Qu'on sait qu'Allah nous voit. Allah nous observe. Et que toute action que j'accomplis, il y a les anges qui sont là, qui inscrivent les actions bonnes comme mauvaises. Et troisième maillon de la chaîne, c'est qu'un jour je retourne auprès d'Allah et que je réponds de ces actions. La personne qui a intégré ça, il fait partie des muttaqin. Et il n'a pas besoin de rappel, il n'a pas besoin de grand discours de 2 ans et demi, il n'a pas besoin de télécharger des programmes audio parce qu'il est entré dans le cercle des muttaqin. Il a tout compris. Il a compris donc la gestion du temps dunya et la conséquence entre chaque seconde du dunya et l'éternité de l'au-delà. Ça, c'est incohérent, ça. Sur le plan mathématique, déjà, l'éternité, ça n'existe pas. Mais on ne peut pas comparer deux entités qui n'ont pas les mêmes hudoud, qui n'ont pas les mêmes limites. Entre un temps limité et un temps illimité, tu ne peux pas dire qu'une minute ici, ça aura quelles conséquences de l'éternité. Déjà, c'est impossible. Mais le muttaqi, il sait exactement, j'ai 25 ans, j'ai 35 ans, j'ai 90 ans, Allahu a'lam. Chaque instant, chaque seconde, chaque minute que je passe, ça a son pesant dans mon mizan, dans ma balance au jour de Qiyama. Le muttaqi, il réfléchit de cette façon. L'homme pieux, c'est pas l'homme qui a rallongé sa barbe et qui a le burqamis. Ça, c'est des dalil, des alamat aussi. Ittiba' as-sunnah sans le moindre doute. Mais la piété, elle commence dans le cœur. Et quand le cœur est devenu muttaqi, bon, ça me dit qu'il y a dans le corps de l'homme un morceau de chair. C'est ce morceau de chair, il est propre, il est sain. Ben, alhamdulillah, ça va se rejaillir sur tout le corps. C'est quoi ce mudra? C'est al-qalb. Cœur pur, ça va se rejaillir à vos yeux, vous contrôlerez vos yeux. Si dans le cœur il y a la crainte d'Allah, et la crainte d'Allah, c'est pas juste que la crainte et la peur sont deux notions différentes. Et là, si on voit le décalage qu'il y a entre l'arabe et la langue française, la peur en français, c'est la peur de quelque chose qui peut te causer du tort. D'accord? Quand on dit la crainte d'Allah, c'est un sentiment mélangé d'amour, de reconnaissance et de haya. Tu as honte de désobéir à celui qui t'a tout accordé et qui en plus peut sévir, peut punir au cas où si on le désobéit. Ça c'est le mafhoum shamil de la taqwa, la crainte d'Allah. Et de cette façon, l'aboutissement de la taqwa, an taj'ala baynaka wa bayna Allah hijab, c'est tu mets un parda. Il ne faut plus dire ce mot, pardon. On met un voile ça aussi peut dire encore, encore quelques temps pour dire. Il faut mettre une séparation entre nous et la colère d'Allah. Ça veut dire quoi mettre une séparation entre nous et la colère d'Allah? C'est une métaphore, ça c'est ta'rif des ulama. Fais en sorte que tu ne te mettes jamais dans une situation, tu ne sois jamais dans une situation où Allah serait mécontent de toi. Et quand est-ce qu'Allah est mécontent de nous? Quand on est dans une situation où on abandonne notre devoir de croyant, ou qu'on accomplit le péché, ce qui est interdit. Et le muttaqi, du coup, il va avoir un muraqabatam, un contrôle permanent de son cœur. Comme on a dit, quand cette conception de la taqwa, elle pénètre le cœur, avec le regard d'Allah au-dessus de nous, le yaqin qu'Allah nous voit, et la conviction que les anges inscrivent, et la conviction qu'on sera présenté devant Allah, qu'il y aura la balance, qu'il y aura la remise des livrets de compte, qu'on a intégré ces différents points qui nous amènent vers la taqwa, et que donc le cœur est devenu pieux. Vos yeux, ils seront sous contrôle. Vos oreilles, ils seront sous contrôle. Vos mains, ils seront sous contrôle. Vous ne serez jamais un voleur. Vous ne détournerez jamais de l'argent. Vous ne serez jamais malhonnête. Vos pieds, ils seront sous contrôle. Vous n'irez jamais dans un endroit haram. Votre langue, elle sera sous contrôle. Vous n'allez jamais faire de riba, vous n'allez jamais menti, ni faire de médisance, de calomnie ou de colportage, rien du tout. Parce qu'à la base, le cœur est devenu muttaqi. Donc il y a un travail à faire sur le cœur. Et pour que le cœur se soumette à Allah Azza wa Jal, on a dit un mot là, pour que le cœur se soumette à Allah Azza wa Jal, il faut qu'il y ait donc une soumission du croyant. Donc le travail qui doit être fait, il doit être fait d'abord sur le cœur. Il faut que le cœur se soumette à Allah Azza wa Jal. Les ulama al-aqida disent que l'ibadah c'est at-tadallul wal-khudu', ça on le répète tout le temps. Le ibadah c'est quoi? C'est la soumission totale à Allah Azza wa Jal. C'est que l'homme reconnaisse sa position de serviteur, d'esclave, de abdallah, qu'on appartient à Allah. Et c'est pour Allah que je pose mon front sur le sol. C'est pour Allah que je ne mange pas du matin jusqu'au soir. C'est pour Allah que je m'habille de telle façon. C'est pour Allah que je ne me découvre pas en public de telle façon, même si les gens m'encouragent à le faire. C'est pour Allah que je sacrifie un animal pour le udhiya. C'est pour Allah que je vais tourner 7 fois au toit de la Kaaba et non pas 5 fois et non pas 12 fois, parce que tout ça c'est amrum min Allah. Et moi, j'obéis, mon Dieu, mon Seigneur, tout ce qu'il me demande de faire. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. J'appartiens à Allah. Le sens profond de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On a tous compris que inna lillahi. Demande à n'importe qui vous a créé. Allah nous a créé, nous appartenons à Allah. Allah c'est notre Seigneur. Mais quand il est question de comprendre wa inna ilayhi raji'un, c'est là qu'il y a tafawud bayna nas. Là, il y a une différence entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » mais qui ne croient pas au-delà. Qui n'ont aucune conviction, ce « Yawmul Akhir ». Vous dites que de quel droit vous jugez? C'est pas moi qui juge. Je vous rapporte ce que Ibn Kathir, rahimahullah, a dit. Ça, c'est notre compagnon depuis le premier Ramadan. Qu'Allah, Rabbul Izzan, donne la possibilité d'être avec lui dans le Jannah. Allahumma amin. Ibn Kathir, dans un verset, je suis en sujet depuis le début, hein, vous savez comment ça se passe. Ibn Kathir, rahimahullah, dans le tafsir d'un verset qui a été lu hier. Vous faites ainsi para par jour. Hier, vous avez lu Al-Hadith, terminé Al-Hadith, hier soir, 27e, sipara. Ah, d'accord. Donc, hier, dans le dernier histoire de Khalafa Makhatbukum, il y a le verset Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu, lilladina amanu dharuna naqtabis min nurikum, qila arji'u wara'akum, après, faltamisu nura. Le commentaire d'Ibn Kathir, il est tout simplement magnifique. Il explique que, il est magnifique, mais en même temps effrayant. Quand on lit ce qu'il explique, il dit que ce sont des gens. Le munafiq, c'est pas un kafir à la base. Le hukm. Le munafiq, il peut être parmi nous. D'accord? Il dit que c'est des gens, il explique, et en détail, qui ont fait le Jumu'ah à côté de nous, qui ont été au Hajj avec nous, qui ont lu le Coran à côté de nous, qui ont prié, qui ont vécu leur vie de musulmans. Mais intérieurement, ils n'y croyaient pas. Et le jour de Qiyamah, lorsqu'ils sont ressuscités, ils ne sont pas avec les kuffars. Ils ne sont pas avec Abu Jahl, avec Haman, Pharaon. Non. Ils sont à côté de toi. Ils sont là. Mais lorsqu'il est ressuscité, il se rend compte qu'il n'a pas la même lumière que toi. Il n'a pas de lumière. Il dit parce que Ibn Kathir explique à travers d'autres hadiths que le jour de Qiyamah, chaque mu'min aura une lumière, un nour. Certains ils auront un nour, si je ne me trompe pas les termes, comme une montagne. D'autres ils auront un nour de tel machin. Et certains ils auront un nour en fonction de leur taille, leur grandeur. Tout est paramétré de l'au-delà. En fonction d'eux, en fonction d'eux, en fonction de quoi? Le nom de famille, ou appelle un tel, ou convient-il depuis combien de temps, ou quel diplôme on avait, ou lire qirab, achara, sabra, ou bien ou lire takti, chafou, karaïf, c'est tout, c'est tout. Iman, amal, saliha. En fonction de ta foi, ta sincérité, tes actions bonnes et mauvaises. Tout va dépendre de ça. Également, quand je dis qirab, le passage m'explique comment les gens vont transpirer. Ala araq. Et il y a des gens qui vont, ils auront la transpiration jusqu'à cheville, jusqu'au genou. On connaît le hadith. Ala qadri a'malihim. En fonction de leurs actions. En fonction de leur péché. Tout va démontrer. Toutes les situations seront adaptées au millimètre près en fonction de notre degré de iman et notre niveau de a'mal saliha. Pareil, le croyant qui marche avec moutarté de ce dunya, il aura une lumière magnifique. Il y a d'autres termes bénécatifs, j'ai oublié. Il parle même de comme une vallée, une montagne de lumière. D'autres moins. Le munafiq, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il est à côté de vous, il n'est pas loin de vous, et il n'a aucune lumière. Donc il est dans l'obscurité. Et il te reconnaît en tant que croyant de la même ville, de la même mosquée. Il dit, il prie à côté de toi toute sa vie. Et là, il demande aux croyants de nous donner un peu de lumière. Parce que c'est là qu'il se rend compte qu'il est munafiq et qu'il n'a aucun nour. Et la personne fera cette demande, bien sûr, est refusée. Et ensuite, il y aura une séparation entre les mu'mines, les vrais croyants, et les hypocrites. Ce qui est choquant de ce verset, l'imbab et tarhib, de mise en garde, et dans les commentaires d'Ibn Kathir, c'est quand il dit que ce sont des gens qui ont prié avec nous, qui ont fait le Jum'a. Il a dit, yusalli al-Jum'at ou al-Jama'at. Il a jeûné, il a prié les salat al-Jum'a à côté de nous, et il a prié les salat en congrégation à côté de nous. Mais le iman n'est pas entré dans le cœur. Ajib. Donc on doit faire extrêmement attention. Ne jamais être persuadé qu'on t'aime le ramadan, c'est bon, c'est acquis, et qu'un jour, quand on meurt, on ira de le Jannah. On doit faire extrêmement attention. On doit en permanence avoir ce sentiment que le muraqabatullah, la pensée d'Allah. Quand on a muraqabatullah, on est sur la bonne voie pour la taqwa. On doit toujours développer cette notion également de ihtisam. Chaque fois que tu accomplis une action, tu penses aux conséquences. Quand c'est une bonne action, tu as raja, l'espoir qu'Allah va m'accorder telle chose. Quand tu es face à un péché, là tu réfléchis. Quelles sont les conséquences du péché? Et normalement, si tu es quelqu'un de cohérent, qui sait faire des choix de la vie de ce dunya, ben tu sais faire les choix pour ta vie du akhira, et de cette façon tu deviens al-kayyis. Tu deviens le croyant intelligent. C'est celui mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Celui qui travaille pour son akhira. Qui chaque jour travaille pour son akhira. On n'a pas dit chaque jour de Ramadan, chaque jour de sa vie, il travaille pour l'akhira. Ikhwani akhawati fillah, nous faisons un constat, c'est un peu, il y a quelques paroles, j'ai dit je reconnais, un petit peu méchant, un peu dur, mais il y a des fois on a besoin, c'est un constat réel, subhanallah. On voit qu'est-ce qui se passe après le Ramadan. Si, Cheikh Mohamed est venu hier samedi, il m'a dit qu'il ne pensait pas qu'il y aurait tant de monde pour salat Zohar un samedi. Vous arrivez, je m'avance un peu, il y a peut-être 1000 personnes. Je dis, Makana, ne rêvez même pas d'avoir une place si vous arrivez 2 minutes après. À l'extérieur, au niveau de vos Zohar, pas derrière, les masajids sont pleins. Et Alhamdulillah, il y a plus de monde qu'avant. Ni'ma minallah. Tout ça, ça prouve que ça, c'est dinullah. Malgré le raz fikri, malgré tout ce qui se dit sur l'islam, les messages erronés, les gens, ils ont iman en Allah. Ils viennent, mashallah. Ça, c'est dalil. Ça, c'est preuve que ça, c'est din d'Allah Azza wa Jal. Mais nous savons comment ça se passe. Entre un samedi, zohar, mois de Ramadan, et un samedi, zohar, en dehors du mois de Ramadan, le mois de Shawwal ou autre, nous savons. C'est un constat. C'est pas que on ne juge personne, mais on voit, on sait exactement qu'est-ce qui se passe. Et quand on voit ce qui se passe, on doit être capable de diagnostiquer où est le problème. Le problème, il vient d'une méconnaissance de notre Rabb, du Ma'boud. Quand on dit La ilaha illallah, la définition du ulama aqid Ahl al-Sunnah al-Jama'a, c'est La ma'boud bi haqqin illallah. Personne ne mérite d'être adoré à part Allah Azza wa Jal. Et les ulama disent que le premier devoir du croyant, c'est de connaître qui est Allah. Quand Jibril alayhi salam est entré dans la masjid Nabawi, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'asseoir à côté de lui, sous l'apparence d'un homme. Voyez, je connais le hadith. Un des hadiths les plus connus du monde musulman. Il dit au Prophète sallam, mal islam. Le Prophète sallam répond, c'est quoi les 5 pays d'islam? Mal iman. Et là, il dit au Prophète sallam, et le Prophète dit à Jibril sallam, les 6 branches de la foi. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? Sadaqt, tu as dit vrai. Vous savez quand est-ce que cette rencontre s'est passée? Après Hajjat al-Wada'a. Selon l'avis de la majorité des savants, après le pèlerinage d'adieu. C'est-à-dire que, dans les derniers jours de l'islam, l'ange Gabriel Jibril alayhi salam vient demander, on pense qu'il aurait pu demander des questions très techniques sur l'au-delà pour compléter, parachever la révélation. Non. Les usul ad-din, les bases de la religion, les piliers de l'islam, les branches de la foi. Pour que les croyants, ce soit un muraja'a, une révision pour eux, et pour qu'on réalise que jusqu'à la mort, on doit travailler le iman. Et jusqu'à la mort, on doit travailler nos piliers de l'islam et qu'on a besoin de progresser. Bien inconscient, celui qui ne travaille pas ses piliers de la foi et ses piliers de l'islam. Bien inconscient, cette personne qui s'autosuffit de sa situation et qui pense qu'il a déjà les qualités du muttaqi. Il suffit juste de comparer notre iman et nos a'mal avec ceux des sahaba pour comprendre qu'on n'évolue pas dans le même monde, que c'est deux mondes différents. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va se contenter du peu d'acquis que nous avons en termes de spiritualité? Jusqu'à quand est-ce que quand, jusqu'à quand, pour on est dans le ramadan, on va dire donc jusqu'à quand je commence en salat, et que le salat au tarawih, l'imam, il a lu Ghayr al-Maghdoubi alayhi wa ad-dallin, et qu'il commence, qad sami'a Allah, je suis déjà parti très loin. Pas besoin d'attendre le 15e rakat, au premier rakat, il commence, qad sami'a Allah, mon esprit vagabonde déjà. Je suis déjà dans les achats, je suis déjà dans les projets, je suis déjà dans les vacances, je pense déjà à autre chose. Je n'ai aucune concentration dans mon salat. Jusqu'à quand ça va durer ça? Jusqu'à quand est-ce que je ne vais rien ressentir de le sujda? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Aqrab, la position où l'homme, le croyant est le plus proche d'Allah azza wa jal, c'est lorsqu'il est sajid, lorsqu'il est en prosternation. Jusqu'à quand est-ce que quand je demande doua, je ne vais jamais ressentir qu'Allah Rabbul Izzah m'écoute, fa inni qarib, et que ça va passer comme des formules que je récite. Jusqu'à quand est-ce que quand on va aller au Hajj et qu'on est debout à Arafat, on va se contenter de prendre Hizbullah Azam et de lire? Je ne dis pas comprendre, pas comprendre, c'est pas une question de langue, mais sans vraiment ressentir la profondeur, la puissance des demandes que je fais auprès d'Allah Azza wa Jalla. Jusqu'à quand est-ce qu'on va se contenter d'une pratique qui est d'apparence et qui n'a quasiment pas de fond, Allah Musta'an? Et qu'est-ce qui prouve que nos pratiques n'ont pas de fond? Elles sont très souvent vides. C'est notre penchant vers les péchés. Quand je suis résolu et je trouve tout à fait cohérent et normal de faire namaz, et que je trouve tout aussi normal d'aller à la banque et d'emprunter de l'argent avec un taux d'intérêt de je ne sais pas combien de pourcents pour acheter un bâtiment ou une voiture, donc entrer dans une transaction de haram, c'est qu'il y a un gros problème de mon iman. C'est qu'il y a un gros problème et que je me laisse tromper par Shaitan. Du début jusqu'à la fin, mia fil mia. Et le pire, c'est qu'il n'agit pas avec toi comme un fasiq. Ce que le fasiq, le pécheur, ce qui est dans le péché, il ne fait pas de bonne action. Il sait lui où il est. Il connaît qu'il est loin. Il sait, il se contente de sa situation, Allah Musta'an. Mais le pire, c'est quand on a affaire à des croyants, à des barbus, à des hufadh al-Qur'an, à des personnes qui se consacrent à la religion et qui n'éprouvent aucun remords par la suite en sortant de la salat à contracter une transaction qui est haram, ou qu'une dame qui, mashallah, après avoir accompli son qiyam al-layl, son tahajjud le soir, lors de la nuit d'un impair où elle a passé la nuit en ibadah, elle a fait son suhur, elle a lu le Qur'an, elle a fait salatul fajr, elle a fait dhikrullah, elle a fait son shuruq, l'ishraq, et qu'ensuite elle n'éprouve aucun remords à sortir sans se couvrir les cheveux, il y a un problème de l'iman et Allah le seul juge. On n'accuse personne, on ne pointe personne du doigt, mais on va dire qu'on doit être capable de déterminer s'il y a des problèmes ou non. Maintenant, si ça ne nous dérange pas de rencontrer Allah Azza wa Jal avec autant de péchés, personne ne répondra des péchés de son prochain jour de Qiyam. Personne, il y a un verset qui ne me revient pas, mais il y a un verset qui est personne ne répondra des péchés de son prochain. Et c'est pas non plus que oui, tel Moïse Ablan, il est rigoriste. Pourquoi il a besoin de dire telle chose? La vie est plus cool, les choses ont évolué. Que ce soit une personne qui dit ou une autre personne, ou qu'on lit dans un livre ou autre chose, ça c'est dinullah. Et celui qui ne fait pas tablir de dinullah, il est pécheur auprès d'Allah. Celui qui connaît et qui a compris les péchés d'une mujtama', d'une société, et qui ne fait pas la da'wah, et qui n'explique pas que attention là ça va mal, sans pointer du doigt, hein, sans dire que vous êtes, non, astaghfirullah, bil hikmah. Avec sagesse, mais juste une prise de conscience. On doit juste être au courant que là-haut, ça se passe comme ça. Et que pour réussir les étapes de là-haut, il y a une préparation à faire maintenant. Soit on est prêt, soit on n'est pas prêt, soit on ne se soucie même pas si je suis prêt ou je ne suis pas prêt, ce qui veut dire que je ne crois pas à ce mawri. Et alhamdulillah, il n'y a pas de détecteur de iman. Alhamdulillah, il n'y a pas de détecteur de foi si on passait un détecteur sur mon propre cœur. Et voir le pourcentage de iman million min akhir que j'ai dans mon cœur, Allah seul sait si ce serait 3 poissons, 4 poissons. Alors que les sahaba, ils étaient tous à 100 poissons. Les savants disent que quand on voit le mode de vie d'une personne, quand on voit sa faculté à accomplir des péchés sans crainte d'Allah, déjà c'est une preuve de l'absence de crainte d'Allah, de taqwa de le cœur, et c'est une preuve que cette personne, c'est révélateur du manquement en termes de foi sur l'au-delà. Bref, pour revenir un peu sur le sujet, on a compris qu'il y a un gros travail à faire dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. Parce que ces paroles-là, ça peut... Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. Je sais que ça fait mal. Les dames aussi, quand elles entendent, elles disent que oui, mais viens pas agacer à nous, dernier jour Ramzan, nous passe bien notre Ramzan. Viens pas dire que si ça retient mon châle, nous avons un adab là-haut. Oui, d'accord, mais on aurait préféré dire quoi? Que de le Jannah, on sera super copains, on sera des poteaux, on va rigoler sous les arbres du paradis. Inch'Allah, on aimerait arriver à cette situation. Mais si on ne dit pas, si on ne met pas en garde contre les conséquences de nos péchés, le jour de Qiyama, ce sera le alim, le mubalir. Celui qui propage sera en premier questionner pourquoi est-ce qu'il n'a pas propagé le haq. Et notre tamanna, notre objectif, c'est d'une certaine façon, c'est l'objectif du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète est décédé et qu'on a partagé son héritage, les gens ils croyaient qu'il y avait de l'argent, il n'y avait rien. Al-ulama warathatul anbiya, fa inna al-anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinara, innama warathu al-ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délégué la science. Son héritage était l'ilm shar'i. Et plus quelqu'un a pris, plus il a eu une part d'héritage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la mas'ouliya, le travail, la responsabilité que de le dire. On peut le dire une fois et ne pas tout le temps répéter, mais ce qui doit être dit, il faut le faire, absolument. Autrement, on est responsable auprès d'Allah Azza wa Jalla. On a compris qu'il y a un gros travail à faire au niveau de notre cœur. Si je veux, si je souhaite que mon cœur soit rempli de crainte d'Allah, parce que après c'est très simple, viendra un moment où Malik al-Maut prendra notre âme. Là il n'y a plus de bayan, il n'y a plus de discours, il n'y a plus rien. Malik al-Maut n'écoute pas, il ne parle pas, il n'est pas là pour... Il a une mission, il vient avec 500 malaïka. Pour le muttaqi, ces anges viennent, ce convoi d'anges, ce convoi angélique vient et il vous annonce la bonne nouvelle, qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de toi. Et il vous adresse les salams de la part d'Allah Azza wa Jal. Dites-moi à ce moment-là de non-retour où les anges vous ont annoncé qu'Allah est satisfait de vous. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Le hadith, vous vous souvenez, c'est peut-être qu'on l'a dit trois fois ce mois. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Quand on t'annonce que Allah il est radiyya, Allah est content, satisfait de toi, comme dans le Coran, Allah Rabbi Izza a dit à Prophète Sahaba radiyallahu anhum radiyallahu anhum, on reçoit, c'est pas le même niveau, mais que quand l'âme quitte, c'est l'ikhtibar est terminé. L'examen est terminé. Ça, c'est la remise des copies. Les métaphores sont justes. Hein. C'est le moment où on juge la personne. C'est le moment où les livrets d'action sont fermés. Khalas. Ce que tu as présenté, ce que tu as amené, c'est ça que tu gardes avec toi. C'est ça que tu amènes de ton qabr. C'est avec ça que tu es ressuscité. C'est en fonction des aman que tu es ressuscité avec Abu Bakr al-Siddiq ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa as-salihin, où tu es ressuscité avec les pécheurs endurcis. Il n'y a plus d'intervention de quiconque là. Et c'est en fonction de ce que tu emmènes que tu reçois ton livret de compte de la main droite ou de la main gauche, de la deux, ou que tu vois ta balance peser d'un côté ou de l'autre, ou que tu passes le salat, ou que tu tombes du salat pour accéder au jahannam par rapport au péché. Ça c'est la finalité. Ça c'est l'étape qui nous attend. Qu'on l'explique ou non, qu'on aime entendre ou non, qu'on aime avancer ou non, en finalité, on va se retrouver, excusez-moi, dans la même galère. Parce que le akhirah, c'est une galère. Le akhirah, c'est difficile. Le akhirah, c'est ibtila, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer comme problème. Quand le prophète dit que celui qui vient en aide à son frère de ce dunya, Allah Azza wa Jal lui viendra en aide dans une étape du akhirah. En commentaire, les savants disent, ça nous fait comprendre que les ahwal, des difficultés de l'au-delà, une difficulté de l'au-delà, ça dépasse tout ce qui peut arriver comme calamité de ce monde, de l'histoire de l'humanité. Une difficulté de l'au-delà. Donc qu'on y croit ou non, qu'on veuille s'investir ou non, que je me considère comme musulman pratiquant la sunna, ou alors musulman modéré, astaghfirullah wa atubu ilayh, ou musulman laïque, a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, ou je ne sais pas quoi, ou musulman périodique, en finalité, on se retrouve tous dans les mêmes situations de l'akhirah. Et là où il n'y a plus de bayan, il n'y a plus de discours, il n'y a plus de dire maman, maintenant il faut faire attention, là on va être ressuscité, donc si vous voulez être dans le droit chemin, allez par là-bas. Si vous restez là, vous aurez des problèmes. Il n'y a plus tout ça. Dans Surat al-Shu'ara, le verset il dit Fala tasma'u illa hamsa. À la fin du verset, on explique que les gens seront invités. Les gens, ils recevront l'ordre dans l'obscurité d'avancer vers l'endroit où ils seront jugés. Et là, il n'y a pas une personne qui parle. Il n'y a pas une personne qui respecte les grands philosophes de ce monde. Les gens qui avaient toujours des idées. Il y a des gens qui ont tellement d'idées et qui ont tellement peu de pratiques. Les grands islamologues, les grands spécialistes de la religion. Il n'y a plus rien de tout ça. Il y a iman, a'mal, saliha. Et en fonction de ça, on t'amène à des endroits. Dit que les gens seront tellement saisis. Fala tasma'u illa hamsa. Ibn Kathir, rahimahullah, notre compagnon, il dit que al-hams, c'est saut de al-akhdam, le bruit des pas. On n'entendra que les gens se déplacer. Pas un bruit. Pas un bruit? Est-ce que vous imaginez une seconde à tawaf sans bruit? Est-ce que vous imaginez une seconde à jamarat sans bruit quand il y a 200 000 personnes? C'est inimaginable. Mais là, on parle de al-khalq. Al-alamin, ay kullu ma siwa Allah, tout ce qui a existé et qui a un ruh en dehors, tout ce qui a un ruh, tout ce qui est makhlouq, je veux dire. Être humain, djinn et les animaux ressuscités, il n'y a pas un bruit. Tout le monde est tétanisé par la crainte, par les ahwal de ce jour. Et le sahaba avait demandé, une épouse pour Assam avait demandé, je crois que c'était Aïcha, quand on parlait de, des gens qui sont ressuscités sans vêtements. Il dit, oh prophète d'Allah, comment est-ce possible sans vêtements les hommes et les femmes ensemble? Vous ne pouvez pas imaginer ça. Parce que ça m'a dit que en ce jour, les gens ils seront préoccupés par d'autres choses. Et dans d'autres hadiths stipulés, qu'ils seront préoccupés par le mizan qui est en train d'être mis en place et nashosuf, les livrets qui sont distribués. Et là, vous êtes dans un stress. On ne sait pas comment est-ce qu'on va recevoir les livrets de compte. C'est des situations de non-retour. Celui qui reçoit de la main droite, Allahu Akbar. Il est tellement fier que là il aura le droit de quelle est l'action interdite qu'il a le droit de faire le jour de Qiyama? L'ostentation. Il va montrer son livret d'action aux gens. On connaît ces hadiths, ces versets. Il va dire aux gens, Fayakulu ha umuqra'u kitabia. Il va montrer à tout le monde son livret qu'il a reçu de la main droite. Il dit, voilà, lisez mon livre. C'est An-Najah. Il a réussi. Al-Fawz. Al-Fawz al-Azim. J'ai été agréé par Allah. Il n'est pas de le Jannah encore. Hein? Il a juste passé la première étape. Mais la première étape, elle est cruciale. Dans le akhira, c'est ça la règle. Tout dépend de la façon que ça commence. Où est-ce que tu es ressuscité? Comment tu reçois ton livret de compte? Et tout va s'enchaîner de la meilleure des façons, de mieux en mieux ou de pire en pire. C'est ça aussi qu'il dit que quand le hisab commence, si dès le départ, il y a un manquement dans les namaz, dans les salat, ça va être difficulté. Je reprends mon terme, ça va être une galère pour la personne. Quand le prophète dit que awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amali as-salat, les anges, Allah Rabbul 'Izza va demander aux anges d'analyser les prières. Et là, ça nous permet également, on revient un peu vers le sujet, ceux qui ont déjà l'intention de rester ferme de la prière, alhamdulillah, bushra, bonne nouvelle. Ceux qui intérieurement ils se disent que Ramadan on est fier, on est ferme de nos cinq prières, mais après Ramadan on peut pas, avec le travail c'est impossible et on recommencera après, ben, que ces personnes réalisent, c'est pas le discours d'un alim, c'est pas une mise en date, c'est pas rien du tout, jusque le jour de Qiyam, quand les anges vont examiner mon livret de compte, ils vont regarder en premier les namaz, les salats. Si les salats sont corrects, 5 salats par jour pendant 50 ans de takalif, 50 ans où je devais le faire pour Allah Azza wa Jal, dit que tout ce qui va arriver après, ce sera grande facilité. Le hisab sera facile pour la personne. Mais si dès le départ, il y a des manquements dans les salats, ce sera difficulté sur difficulté. Maintenant, à nous de choisir quelle situation je veux vivre le jour de Qiyam. Ça, c'est moi qui choisis. Donc, ikhwan fillah, pour revenir un peu sur le sujet, on a tout à fait compris qu'il y a, on a besoin de se remettre en question, on a besoin de travailler ce cœur, on a besoin de faire entrer la crainte d'Allah de ce cœur, on a besoin de faire entrer ikhlas, la sincérité, comme minan nas. Combien de personnes font de bonnes œuvres mais ils ne sont pas sincères? Jour de Qiyam, qu'Allah nous protège, le prophète samedi, les premières personnes entrées dans le Jahannam, alim, savant, dans d'autres versions on dit qari, muhsin, c'est-à-dire munfiq fi sabilillah, et razi. Trois catégories de personnes qui ont fait des actions qui ont de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Le savant qui propage, on connaît les hadiths qui parlent l'important de talabul ilm, il de propage la religion. Dans certaines sources, dans certains riwayats, on parle de alim, dans d'autres on dit qari, le lecteur. Il le faisait ses bonnes œuvres, mais pour faire voir aux gens. Pas pour Allah Azza wa Jal. Il va reconnaître. Allah Rabbul Izzah demandera aux anges de prendre cette personne et de jeter dans le Jahannam, sallallahu alayhi wa sallam. C'est les premiers mu'mines à entrer dans le Jahannam. Des gens qui ont fait des actions magnifiques de ce dunya. Également celui qui donnait, celui qui donne dans le chemin d'Allah en quantité. Il donne pour la masjid, il cotise, il est adhérent, il est suradhérent. Il donne, il envoie pour tous les pays du monde. Mais il fait ça pour que les gens disent, ça c'est un homme riche, c'est un homme généreux, ça c'est quelqu'un à grand cœur, le cœur de la main, comme il dit. Il n'y avait rien pour Allah Azza wa Jalla, c'était que pour faire voir aux gens. Première personne est jetée de le Jahannam, sallallahu alayhi wa sallam. Dire que ça veut dire qu'on doit faire attention. Ça, c'est des qualités qui ne trompent pas, ça. On ne trompe pas Allah. On peut tromper son épouse, par, tromper dans le sens, par rapport à notre façon d'agir, de notre façon aussi. On peut tromper notre patron, on peut tromper nos parents, nos élèves, nos collègues, on peut tromper la jamaat en entier. Mais on ne trompe pas notre Rabb. Parce que ce qu'il y a dans le Coran, c'est ça, c'est haqiqa. Et qu'on est dans la tombe d'après vous. Pour comprendre conscience que tout va ressurgir du cœur. Quand on est dans le qabr et quand les anges posent des questions, quelles sont les questions qui sont posées dans la tombe? Quelle est la part de l'héritage d'un homme qui avait une épouse décédée et une fille, deux garçons? Des questions compliquées comme ça, où il faut tirer ton calculatrice pour calculer l'héritage. Des questions, des fatwas. Non! Man Rabbuka. Ben, moi, il dit Man Rabbuka. Mais c'est trop facile, c'est Allah. Ah, mais tu dis le verbe écrit chez mon kafan, la réponse. Madinouka, mais digne à l'islam. C'est la question que vous posez, ça? On poserait pas cette, on pose cette question-là aux classes 1. Ils ont 5 ans. Ils savent pas lire, mais ils mémorisent. Ça, c'est l'irtibar. Et que connais-tu de cet homme en parlant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Je dis, mais est-ce qu'il y a besoin d'un grand istihdad pour répondre à ces questions? Oui, mais les ulama disent que là où on a peut-être pas compris, c'est que quand on passe dans le monde du akhira, c'est pas ta langue qui parle, c'est ton cœur. Ce que tu as cumulé comme iman, c'est ça qui sort et qui te permet de répondre ou qui te met dans le doute, qui t'empêche de répondre, qu'Allah nous protège. Et si dans la première étape du akhira, la première étape d'échange, parce que comme elle est calme, tu prends ton âme là, soit il t'annonce la bonne nouvelle, soit c'est une mauvaise nouvelle, mais il ne te demande pas de répondre. Il n'y a pas d'échange. Il vient, il te dit, et tu vois qu'est-ce qui se passe. Soit c'est rahma, soit c'est adab. Il reprend le ruh. Et il part, il monte au ciel. Et puis il y a d'autres étapes. Mais dans la tombe, c'est la première fois où on a un échange avec le monde de l'invisible. Les anges qui viennent, qui posent des questions, et il y a une réponse à donner. Il dit donc que si dans la première étape, on a vu que tout va ressurgir du cœur, c'est ton ikhlas, sa sincérité, c'est ta piété, c'est le niveau, le mustawa de tawakkul ala Allah, de yaqin ala Allah qui ressort. Ça veut dire que dans l'au-delà, toutes les étapes qui vont venir après, ben ça va être la même règle. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va ressurgir. D'où, ikhwani fillah, pour la cinquième fois, on le répète, amir, travailler ce cœur. Faire entrer la taqwa de ce cœur, la sincérité, le istiqama qu'on a expliqué en introduction. On essaie d'obtenir ce halawatul iman, la douceur de la foi, à un tel degré que comme le roi Sassam avait dit que la fraîcheur de ses yeux, il a qualifié la salat comme étant qurratu aynihi, la fraîcheur de ses yeux. Qu'on arrive à une situation où je trouve le bonheur, l'émancipation totale quand je suis en sijda. Tout ça, j'ai besoin de faire entrer dans mon cœur. Arriver au degré de ihsan, que quand je fais deux rakat, j'ai la conviction de. C'est comme si que je suis devant Allah. Anta'abudallah ka'annaka tarahu. Et que je montre à Allah ma bonne volonté. Je montre à Allah mon humilité, mon inkisaru lillah. Et je suis persuadé, fa'illam takun tarahu fa'innahu yara. Je suis persuadé qu'il y a le regard d'Allah sur moi en permanence. Ça, c'est des qualités qui doivent habiter le cœur. Si ça, c'est rentré dans le cœur, il faut aller là. On est sauvé. On est sauvé dans ce monde. On est sauvé dans la tombe. Et on est sauvé le jour de Qiyamah de l'au-delà. Et on a besoin de travailler ça. Et pour que ces réalités pénètrent le cœur, il faut aller là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que ces réalités pénètrent le cœur, il n'est pas forcément nécessaire de multiplier les bonnes actions. Combien de personnes cumulent les tilawatul Qur'an durant le mois béni? Il y a des gens qui tous les trois jours ils font un khatm al-Qur'an, mais qui après le ramadan ils vont retourner, c'est un constat, vers leur vie d'antan pareil, sans changer, sans évoluer. Donc kathratul a'man, la multiplication des bonnes actions n'est pas suffisant pour que ces qualités là les cinq qualités qu'on a dit, les cinq qualités spirituelles, c'est pas suffisant pour que ces cinq qualités pénètrent le cœur. Donc il y a autre chose. Les savants disent que si on analyse le comportement de celui qui retourne vers l'égarement après le ramadan et qu'on prend un échantillon de croyants, on va réaliser, on va constater la même chose. C'est que ces bonnes actions, ils le faisaient de façon traditionnelle. C'est un héritage culturel. Le ramadan, c'est ma culture. Le ramadan et le samoussa, c'est le même niveau. Le ramadan et le tarawih, c'est pareil. Le tarawih et le milchèque LGM après le ramadan, après le tarawih, c'est au même niveau. C'est la tradition. C'est comme ça, ça marche comme ça. Le kurbani, le choix du bœuf et l'action, c'est pareil. Et on ne sait pas où est l'intention. Il n'y a plus de nia. n'y a plus d'ikhlas, il n'y a plus d'istiqama, il n'y a plus de mujahada, il n'y a plus de tawadu' lillah, il n'y a plus de tazallul, le khudu', l'humilité pour Allah, il n'y a plus rien. Il y a juste l'action. On amène en masse. Voilà, 30 ramadan, 30 tarawih, le gros bœuf d'un tonne 2, et ainsi de suite. On cumule le hajj à 7000 euros, mashallah, parce que j'ai pu prendre chambre double, j'ai les moyens, moi, quand même. Chambre double avec tel groupe, donc 7000 euros. Mala craché, pour moi, madame, ça fait 14000 euros. Je l'ai fait. On a amené. On pose sur la table quantité d'actions, mais il n'y a pas d'ikhlas, il n'y a pas les qualités, les 5 qualités qu'on a citées, et ces 5 qualités-là sont essentielles. Donc, les savants disent, qu'est-ce qui fait que le croyant arrive à une situation désespérante? Parce que quand on parle de quelqu'un qui est kafir, on connaît que c'est un kafir, il n'a pas la ilaha illallah dans son cœur. Quand on parle d'un fasik, on connaît le bouc, il ne vient pas à namaz, même dans Ramzan, il ne vient pas, parce qu'il y a quelqu'un qui l'est éloigné. Et on connaît sa situation. Mais quand on parle de, comme de le verset de la sourate de l'Al-Hadid, que la personne il faisait prier Jumaa à côté de toi, il faisait salat, et que le jour de Qiyama, il se retrouve dans la galère, il se retrouve rejeté, il se retrouve jeté complètement, sans nour. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Le jour de Qiyamah, Allah le protège, c'est khassar. C'est la pire des choses. Qu'est-ce qui fait que les gens retournent vers le haram après les périodes de halal? C'est qu'en finalité, là, comme on a dit, les actions, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas compris la réalité des actions? C'est qu'ils n'ont jamais compris pour qui ils font tout ça. Ça, c'est al-jawab al-nihai. Ça, c'est la réponse qui est une conclusion en même temps. Ils n'ont pas compris devant qui ils se prosternent. On n'a pas compris pour qui on s'abstient de manger, de boire. On n'a pas compris pour qui on fait le tawaf. Le plus grand problème dans la umma, quels que soient les endroits, c'est que le mu'min n'apprend pas à connaître Allah Azza wa Jal. Si on pose une question à un échantillon de personnes, donnez-nous quelques 10 noms d'Allah Azza wa Jal. Il y en a qui vont dire, ceux qui sont hafiz al-Qur'an, ils vont dire « Wallahu al-Khaliq al-Bari » et ainsi de suite. Ils disent « Bon, c'est bon, tu as récité ce que tu as appris par cœur. » Mais c'est « Asma'ullah Azza wa Jal », c'est « Sifat d'Allah Azza wa Jal ». Où est-ce qu'ils sont dans ta vie? De quelle façon est-ce que tu augmentes ta notion de tawhid par rapport au sifat d'Allah Azza wa Jal? J'ai un exemple, hein. Tu m'as dit dans un verset par exemple « Inna Allah sami'un basir ». Premier niveau, il va te dire Sami'un Basir. S'il est un peu plus intelligent, un peu plus éduqué, il va dire que Sami'un, c'est Allah entend tout. Et Basir, Allah voit tout. Il dit, ok, ça c'est le deuxième niveau. Maintenant, si on pousse plus loin, il dit, mais comment est-ce que tu pratiques ta religion? Comment est-ce que tu améliores ta relation avec Allah Azza wa Jal par rapport à ces deux sifats-là? Je ne sais pas, mais il ne connaît pas encore le verset. Mais connais quoi il veut dire, Malak Madrissa. Celui qui a réellement compris qu'Allah est Sami'un Basir, vous le trouvez en boîte de nuit? Vous le trouvez en train de boire, en train de se piquer, en train de sniffer, en train de faire tel péché. Vous le retrouvez en train d'insulter ses parents. Vous le retrouvez en train de manquer de respect à ses voisins, aux personnes âgées. Il arrête les dalik, les péchés qu'on connaît. Vous le retrouvez en train de faire l'adultère. Abadan wallah. Celui qui a compris qu'Allah est Sami' et Basir. Celui qui a compris qu'Allah est Alimum bidat as-sudur. Allah, il sait exactement ce qu'il y a de ton cœur. Jamais on le retrouvera de le haram. C'est-à-dire qu'il suffit de connaître quelques qualités d'Allah Azza wa Jal pour que immédiatement notre vie change. Et pourquoi je dis immédiatement? Ça c'est radical, c'est rapide. Parce qu'on a les bases du iman et on a les bonnes actions. Nous ne sommes pas comme quelqu'un qui n'est pas de la foi et qu'il faut construire. Il faut apporter namaz, il faut enseigner l'alif et namaz. Quelqu'un qui vient de se convertir, il faut tout apporter. Non, on le pratique depuis 25 ans, 30 ans, mais il manque le déclic, il manque l'âme, rouh, il manque l'âme des actions. C'est-à-dire que quand tu fais sijda, oui, c'est en face Kaaba. Mais c'est pas pour la Kaaba, si on a compris. C'est pour Allah, mais qui est Allah? Devant qui tu te prosternes? Et réalise que c'est une chance, c'est un honneur, Izzah qu'Allah te donne de te prosterner devant lui. Et que quand tu te décides, dès maintenant, de ne plus prier Fajr après Eid, de quoi est-ce que tu es en train de te priver? Comment est-ce que tu es en train de t'éloigner d'Allah qui est Sami'un Basir Alim ou Midat Sudur? Quand dans ton cœur, tu as déjà préparé ton plan, na'oudhu billah, satanique d'après Ramadan, Allah Azza wa Jal, muttali'un ala qalbik, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Ala tastahiyé, on n'a pas honte de penser à ses péchés. Si on savait seulement qu'Allah il connaît ce qu'il y a dans nos cœurs, on retourne avec l'akhira dans un hadith, il cite également que le jour de Qiyama, la personne, ça c'est l'homme que je ne veux pas être. Qui est présenté, le mu'min, on ne parle pas de kafir, le mu'min est présenté devant Allah Azza wa Jal, le tribunal, c'est une autre étape, c'est devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, où la personne, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, il va lire, il va découvrir ses péchés, et Allah Azza wa Jal va converser avec lui. Et cette conversation, il croit en effet là, qu'Allah nous protège. من نوقش الحساب فقد عذب, ou comme a dit Allah Azza wa Jal, celui à qui Allah a posé des questions, le munakasha, pourquoi? c'est déjà un azab. Parce que, Allah Akbar, qui peut, astaghfirullah, qui peut tenir tête à Allah, astaghfirullah, tawili. Qui peut, subhanallah, qui peut écouter des reproches du Khaliq al-Bari, azza wa jal. Qui peut supporter que notre créateur, le jour de Qiyama, et le président du hadith, que la personne, yanzuru aymana minhu, fala yara illa ma qaddam. La personne regarde à sa droite, il voit que ses actions, rien d'autre. Il regarde à sa gauche, il voit que ses actions, rien d'autre. Et il regarde devant lui, là c'est quand il est devant le tribunal, il regarde devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Un nar, jahannam qui est là. Et Allah est en train de lui poser des questions sur l'abandon des prières. Sur, ça c'est moi qui rajoute, hein, mais sur les péchés en général, là je donne des exemples sur l'abandon des prières, sur tel péché. Et que, qu'est-ce que la personne peut répondre? Quand il voit le jahannam, et quand il entend les reproches qui viennent d'Allah Azza wa Jalla, qui peut se dire, je vais dire telle chose? Qui peut se dire, je vais expliquer à Allah? Astaghfirullah. Qu'on vivait dans un monde occidental et qu'on n'était plus à l'époque prophétique dans un désert où la femme pouvait se couvrir les cheveux aisément sans souffrir des regards des gens, où c'était la norme de s'habiller de cette façon, et que dans une société multiculturelle avec une culture réunionnaise, française, européenne, il n'est pas possible de s'intégrer en se couvrant. Vous avez dit ça à Allah Azza wa Jal? On est prêt à dire ça à Allah Rabbul Izzah? Celui qui est prêt à le dire, il comprendra le jour de Qiyama que c'est impossible. Quand on dit que les gens, ils se déplacent, on les fait bouger d'un endroit à l'autre, ils disent pas un mot. Illa hamsa, on entend juste ces bruits des pas. Tétanisés, angoissés, kalfarash il mabthouth, comme dans cette inversion, on parle de comme des papillons, si je ne me trompe pas, et des insectes éparpillés, affolés complètement. Les gens, ils savent plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui nous attend. Donc, ikhwan ya khawati fillah, il y a une remise en question. Il y a un amal, il y a un travail à faire sur les sifats d'Allah. Je regarde là en même temps, je crois qu'on a dépassé un peu le temps. Il y a un travail à faire pour construire une relation avec Allah Azza wa Jal. Et pour que cette relation elle soit construite, comme on a dit, on a les bases, on a les fondations, on a l'ornement, on a tout. Il nous manque le ruh, l'âme. Et l'âme, c'est connaître qui est Allah Azza wa Jal. Et donc, quand Jibril demande au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mal iman an tu'mina billah. Première chose que le Prophète dit, c'est de croire en Allah. Et ça veut dire quoi, croire en Allah? Ça veut dire que connaître Allah existe? Ok. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas de tafaoud bain al-nas, fil iman billah? N'y a-t-il pas différents niveaux entre les croyants dans iman billah? Est-ce que mon la ilaha illallah est comme la ilaha illallah de Abu Huraira? A'oudhu billah. Ça ne se compare même pas en chiffres. C'est même pas 1 milliard de %. C'est-à-dire que dans Iman Billah, il y a tafaoud, il y a une différence entre les gens. Plus, et ça les ulama ils disent, plus un croyant va connaître Allah Azza wa Jal, plus on va connaître Allah Azza wa Jal. Il y a 5 points, vous l'avez noté, parce que ça, on ne peut pas se tromper. Plus, biqadri ilmika bi sifatillahi Azza wa Jal, en fonction de ta connaissance des qualités d'Allah Azza wa Jal, plus tu connais ton Rabb, ton Seigneur, tu auras augmentation de Iman. Plus, plus tu as le ilm, la connaissance des sifats d'Allah, ce qu'Allah bien sûr a révélé dans le Coran, tu donneras de l'importance à l'ihtimam pour les bonnes actions. On trouvera khushu', khudu', tadallul, la soumission, on ressentira la douceur de la foi dans nos prosternations. Quand on va réaliser qui est Allah. Et on va éprouver ash-shu'ur bi khatari adh-dhunub. On va réellement intégrer, on va réellement réaliser que les péchés c'est mal, c'est mauvais, c'est néfaste, c'est mauvais pour mon dunya, c'est mauvais pour mon akhira, ça noircit mon cœur, ça m'empêche de me rapprocher d'Allah, ça fait une carapace sur mon cœur, j'entends le Coran, ça ne me fait aucun effet, je le imam, il peut lire, je peux faire salat des shurayn, des mu'aqili, des sudais, des hudayfi, premier saf devant la Kaaba ou des al-Masjid Nabawi, je ressens rien. Je peux lever les mains, demander doua, wukuf, arafat. Je ne ressens rien. Parce qu'il y a une carapace, il y a une noirceur. Cette noirceur, c'est quoi? C'est khatar al-dhunub. Athar al-dhunub. Les dangers, les conséquences des péchés. Quand un mu'min, il connaît qui est Allah Azza wa Jal, il s'éloigne du moindre des péchés. Ça, c'est moi qui rajoute comme la peste. Il sait qu'il y a quelque chose qui est makrou, il s'en éloigne parce qu'il a peur. Si je fais un péché, il y aura un point noir. S'il y a un point noir, je m'éloigne d'Allah. Quand mon sujda n'aura pas la même valeur, ma dévotion ne sera pas la même, mes actions ne m'apporteront pas les effets souhaités. Alors que celui qui ne connaît pas Allah du tout et qui ne fait que suivre les gens, le iman n'est pas fort. L'imam n'est pas formé pour affronter les fitnas de l'extérieur. Il y a un péché, on tombe comme des mouches qui tombent, on tombe comme tout le monde. Et là, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence entre le mu'min et celui qui n'a pas iman. On ne donne pas d'importance réellement aux bonnes actions, si ce n'est qu'une importance périodique, comme c'est souvent notre cas. Ramadan, ok. Quand je veux Umrah, oui. Mais en dehors de ça, c'est pas. C'est-à-dire que ça, c'est une preuve qu'on ne connaît pas notre Ma'boud. On ne connaît pas notre Seigneur. Donc, on n'a pas réalisé l'importance des actions qu'on fait pour lui. Qillatul khushu'i fi salah. Et plein d'exemples. Pas de concentration, ça on a déjà dit. Pas de concentration, pas de dévotion d'aucune de nos bonnes actions. Et al-istihana min al-dhunub. On va sous-estimer les péchés. Ça n'est pas grave, ça. Non, la démonie fait pire. Ça, c'est un petit péché. Ça n'est pas lourd en conséquence. Vu le contexte, je ne le considère... Moufti parle, hein. Vu le contexte, je ne le considère plus comme un péché. C'est devenu quelque chose de la vie de tous les jours. Tout ça, c'est quand l'iman est faible. Et pourquoi est-ce que l'iman est faible? C'est quand l'iman ne se connecte pas avec le Khalik, qu'on ne connaît pas pour qui on fait ces mujahada, pour qui je jeûne, pour qui je prie, pour qui je me prosterne. Donc, il croit en Ifillah. Ash-Shawkani, rahimahullah. Ibn Kathir, rahimahullah. Et à Sa'adi, trois mufassirin, ils ont écrit des paroles magnifiques. On est à 1h02. On a combien de temps, cher Ndadullah? Ah bon? Inch'Allah. Donc encore. Ah bon? Donc il reste quoi? 20 minutes. Ces trois mufassirin, ils ont écrit des paroles magnifiques concernant le caractère prioritaire. Je dis bien prioritaire. Ils en font. On avait expliqué ça la semaine dernière. On n'a pas pu compléter. Donc, on ne pourra pas compléter aussi peut-être. Ils expliquent le caractère prioritaire de connaître qui est Allah Azza wa Jal. Et quand on lit les paroles de ces trois mufassirin de renommée, il y en a qui sont parmi les anciens, d'autres parmi les contemporains, on se dit presque qu'il est en train de parler de quelque chose qui est farz et ayn. Presque. Il est en train de parler de quelque chose qui est obligatoire. Mais si on analyse réellement, connaître Allah, c'est notre premier devoir. Quand tu dis « La ilaha illallah », il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, mais tu dois connaître qui est ce Allah, pour qui tu donnes ta vie. Quand je dis que ma vie, « Inna illahi wa inna ilayhi raji'un », ouais, ok, mais Allah c'est qui? Tu appartiens à qui? Allah, mais Allah c'est qui? Et tu retournes vers lui, mais vers qui tu retournes? Il est comment ton Seigneur? Et quand je dis, comprenez, quand je dis qu'il est comment, c'est quelles sont les qualités? Quelles sont les qualités qu'il a révélées dans son livre pour que toi, ya ayyuhalladhina amanu, ils connaissent qui est Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'Allah Rabbul Izza envoie les Anbiya, c'est pour enseigner aux gens qui est Allah et qu'il faut donc l'adorer. Allah est unique, Allah tel sifat, donc il faut l'adorer et donc il faut délaisser le batil, il faut délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc, ikhwani akhawati fillah, prise de conscience nécessaire sur l'importance de connaître le sifat d'Allah Azza wa Jal. En quelques instants, on peut développer, inshallah, une des sifat, une des qualités d'Allah Azza wa Jal, et qui nous sera profitable dans les quelques jours du Ramadan qui reste. Et qui sera, subhanallah, j'aurais aimé être parmi vous, extrêmement profitable pour les mu'taqifin, ceux qui donnent ces 10 jours pour Allah Azza wa Jal, qui restent dans la masjid, qui restent de l'ibadah, qui restent de les plus hauts degrés de concentration. Ben, vous savez, les ulama disent que lorsque une personne a compris, il commence à comprendre qui est Allah, son sijda va avoir une autre valeur. Son dua, ce sera un autre niveau. Chaque action qu'il va accomplir, il va passer dans une autre dimension. Ce sera plus la personne qui cumule. Ce ne sera pas des actions en gros. Ce seront des actions avec la qualité. Où on ressent la douceur de la foi parce qu'on connaît devant qui on se prosterne. Et on réalise le nœud qu'Allah nous donne en nous donnant la possibilité de faire sijda devant lui. Et donc, la première qualité, Allah Azza wa Jal a 99 noms. Par quoi on peut commencer? On va commencer par Rahman Rahim. Quels sont les deux sifat d'Allah Azza wa Jal que nous lisons le plus souvent dans une journée de croyant de 24 heures? C'est Rahman Rahim. Dans chaque basmala, Bismillah Rahman Rahim, et dans chaque Al-Fatiha, Ar-Rahman Rahim. Et les ulama Aqidah disent que, d'après vous, pourquoi est-ce que ce sont les deux qualités qui sont amenées à être lues le plus souvent possible par un croyant? Et Ar-Rahman Rahim, ça veut dire, excusez-moi, le très clément, le très miséricordieux. La clémence, la miséricorde, ce sont des attributs qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Kama yaliqu bihi Azza wa Jal. Pour un être humain, même si on a utilisé quelqu'un qui est clément, qui est miséricordieux, bon, on va dire que ce sont des termes. Mais les ulama aqidah, ils appellent ça des lafz mushtarak, des termes communs. Des termes communs, parce que la clémence d'un patron, excusez-moi, pour son employé. et la clémence d'Allah pour son serviteur qui qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah rahma rahman rahim. Même si on n'est pas arabe au fond à 100%, on a reconnu qu'il y a les mêmes, il y a le ra, le ha et le mim, c'est la même racine. Oh, vous qui avez les personnes qui, ceux qui sont partis très loin dans les péchés, très loin, ils ont fait énormément de péchés. Ça peut être une vie de péché. Hadith qu'on a lu hier, Cheikh Mohamed a expliqué, ou alors on a lu ce matin, peu importe, qui parle du même sujet. Une personne qui va voir le prophète sallam à un âge avancé. Un âge avancé. Le monsieur, il est vieux. Il vient voir le prophète sallam, dit au prophète d'Allah, si tu savais les péchés que j'ai accomplis, j'en ai tellement fait que j'ai honte, je peux même, j'ose même pas te dire. Et puis il y a deux termes en arabe, j'essaie de me rappeler, j'ai oublié les termes magnifiques, de mots magnifiques, un qui parle des péchés terribles, qu'on a même, on a honte d'en parler à un être humain, tellement c'est grave, et d'autres péchés, on va dire, graves aussi, mais c'est pas de ce niveau. Elle dit, est-ce qu'Allah peut encore me pardonner? Le prophète me dit, tu as iman, fais de bonnes actions, demande toi, Allah va te pardonner. Et il dit que, en fonction des péchés, Allah te donnera une lumière par rapport à ces péchés aussi, si tu es sincère envers Allah. Et là, l'homme, il demande au prophète, sallam, ça c'était hier, c'est avec Cheikh Mohamed. Il dit qu'au prophète d'Allah, même ces méga péchés-là, même le terme, subhanallah, ne me revient pas, même cette catégorie, le prophète me dit même cette catégorie. Et la personne, et je reprends les termes de Cheikh Mohamed, dit, ce coco l'a bloqué. Il comprenait plus comment Allah il peut être aussi clément, il est aussi rahim, il est aussi rahman. Il dit, il s'éloigne en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas le Allahu Akbar, une théorie qui explose. Ça, t'as non, rien à voir. Ça, c'est un Allahu Akbar détourné. D'accord? J'allais les maudire presque, mais je ne le dis pas. Ça, c'est Allahu Akbar de takbir, de ta'zim, c'est que la personne qui est admirative, parce qu'il vient de découvrir une qualité d'Allah qui est Rahman, Rahim, Tawwab, Afu, Ghafour. Comment Allah est clément, miséricordieux. Et cette qualité-là, de clément, de miséricorde, Wallahi l'Azim. Si nous l'intégrons, je vous assure que notre i'tikaf, il prend un autre niveau. Notre i'tikaf, il devient 10 jours de Jannah, de paradis. Je vous assure que notre sijda, c'est un autre niveau quand on est conscient qu'Allah, le Rahman, le Rahim, le très clément, le très miséricordieux, me donne à moi Ibrahim, ou à Muhammad, ou à Nour, ou à Ishaq, comment je suis pécheur. Il me permet de me lever 25e, de passer une nuit en faisant sijda, en lisant, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allahumma innaka afoun, tuhibbul, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Il me donne l'honneur de le faire et que son trésor est tellement immense, sa clémence est telle qu'il peut pardonner tout ce que je peux imaginer comme péché, les péchés dont je suis conscient et même inconscient. Vous avez un inshirah al-sudur, une ouverture de la poitrine, une telle joie intérieure, un tel sentiment de confiance. Vous êtes, astaghfirullah, le terme n'est pas adapté, entre de bonnes mains. Vous êtes avec qui? Vous êtes aux mains d'Allah. Et que vous êtes en train de dire, Ya Allah, quand j'avais 15 ans, j'ai fait telle chose. Ya Allah, ensuite, dans une situation de ma vie, j'ai suivi des amis, on a été dans des endroits haram. Ya Allah, j'aurais pas dû faire ça, Ya Allah. Si je regrette, Ya Allah, Tawbah, Ya Allah, vous êtes Rahman, Rahim, vous êtes Karim, vous êtes Ghafour, Rahim. Ya Allah, vous avez dit dans le Coran, Ya Ibad, Ya Alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatum min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah est capable de tout pardonner, Ya Allah. Je fais partie de tes Ibad, de tes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Et en cette nuit, Ya Allah, je regrette, Ya Allah, jamais, jamais plus, jamais plus, Ya Allah. Tawbah, Ya Allah, pardon, Ya Allah. Enlever ses péchés. Wallahi l'azim, je jure par Allah que notre Rabb, notre Seigneur, il est tellement bon, il est tellement gentil, il est tellement miséricordieux, il est tellement clément, il est tellement latifun bi'ibadi, il est tellement bienveillant vers nous, qu'Allah Azza wa Jalla est capable de tout pardonner. Mahwu sayyi'at. Et ça, c'est le sens profond de Allah, le commentaire de Allah, innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Les ulama disent, al-afu, pourquoi est-ce que c'est le terme Al-Afu, et pas Al-Maghfira, qui est prononcé dans le Doua, qui est Masnoun, lors de la nuit du destin, lors de la dernière décane, parce que Al-Afu, c'est une qualité qu'Allah, il a, subhanallah, c'est d'enlever les péchés, totalement, de telle façon qu'il ne reste plus une trace, ni dans le livret de compte, ni les anges ne s'en souviennent, ni la terre où tu as péché ne pourra témoigner contre toi, ni les membres qui ont accompli le péché pourront témoigner contre toi le jour de Qiyamah. C'est Maghfirat Tamma, c'est le pardon parfait, Kamil. qui ne peut provenir que de Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Bari, Al-Ghafou, Al-Ghaffar, Al-Tawwab, qui ne peut provenir que d'Allah Azza wa Jal. Ikhwani fillah, khawati fillah, nos prières sont importantes, nos du'as sont essentielles, nos istighfars sont importants. Combien de personnes demandent istighfar, ah et moi en premier, qu'Allah me pardonne, combien de personnes demandent istighfar, ils s'endorment, ils laissent le tasbih tomber, et ils s'endorment parce que on n'a pas compris à qui on est en train de s'adresser. Lisons encore dans un kitab, hier, c'est Ibn Kathir même, c'est toujours Cheikh Mohamed qui nous expliquait, c'était lui, Allah il dit khaira, Allah vous a donné un trésor, subhanallah, il nous apprend des choses. Il dit que la personne qui demande pardon, et soi-disant, il demande pardon, mais dans sa tête, il n'a pas l'intention d'arrêter le péché, il est en train de manquer de respect à Allah Azza wa Jal. Il est en train de manquer, c'est comme si qu'il manque de respect. Comment est-ce qu'il peut s'adresser au Seigneur, Rabbus Samawati wal Ard, et dire, oh Allah, pardon, et intérieurement, il sait qu'il va tromper, il va revenir sur sa parole, il va revenir avec le péché. Rien, rien, a dit que ce istighfar, ça nécessite un autre istighfar. Alors que celui qui connaît les qualités de son Seigneur, il ne peut plus se mettre dans une situation, il va désobéir à Allah, Azza wa Jal. Les savants, les ulama aqidah disent également, quand quelqu'un fait ce cheminement pour apprendre, pour connaître les noms d'Allah, Azza wa Jal, il dit qu'il y a, un cas de figure qui est déplorable, enfin, c'est celui qui pratique et qui ne connaît pas du tout Allah. Peut-être qu'il continue, peut-être qu'il le fait sans sincérité ou autre chose, comme elle dit tout à l'heure. Elle dit, mais par contre, ce qui n'existe pas, c'est quelqu'un qui a appris les noms d'Allah et qui ne les met pas en pratique. Ça, c'est impossible. Ça, c'est des paroles d'être humain. C'est pas hadith, hein. C'est des paroles d'être humain. Ils disent que quelqu'un peut apprendre le fiqh et ne pas faire la salah. Je peux apprendre les règles du hajj par cœur, mais je ne fais pas le hajj. Je peux apprendre les règles de zakat, je maîtrise, mais je ne paye pas la zakat. Et ainsi, on a compris. Mais quelqu'un qui apprend à connaître Allah, qui connaît le sifat d'Allah, Azza wa Jal, et qui ne devient pas un muttaqi, ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand tu as réalisé qu'Allah il te voit, qu'Allah t'entend, qu'Allah sait ce qu'il y a de ton cœur, qu'auprès de lui tu reviens, et ainsi de suite, l'homme ne peut pas rester une seconde fil rafla. L'insouciance, le nifar, le riya, sum'a, shuhra, et ainsi de suite, tout ça, ça va sortir de ton cœur, et ce sont les qualités qu'on a dit tout à l'heure, tawadu', istiqama, ikhlas, inkisaru lillah, halawatul iman, ça va entrer dans le cœur, parce que le cœur a compris qui est son Rabb. Il se soumet à Allah Azza wa Jal. Donc le premier sifat qui nous intéresse, c'est ce que nous lisons le plus souvent dans la salah, c'est Rahman, Rahim, Clément, Miséricordieux, il y a plusieurs versets, Rabbana, وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا dans la surah Ghafir. Il dit que, à travers ce verset, je n'ai pas la traduction, mais il dit que la clémence d'Allah atteint l'endroit où arrive son ilm. C'est de l'éloquence des versets du Coran. وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا Allah a accordé à tout, enfin, son ilm est partout, ainsi que sa clémence. C'est-à-dire, mahma, où le ilm d'Allah est parvenu, il y a sa clémence. C'est-à-dire que partout, le ilm d'Allah couvre tout ce qu'il a créé. Tout est couvert par la connaissance parfaite d'Allah Azza wa Jal. Donc tout est sujet également à la clémence d'Allah. Ce verset, il est juste magnifique, puissant. Parce qu'il nous fait comprendre que la clémence d'Allah, elle couvre tout. Et donc nous, étant en plus ummah, faisant partie de la ummah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes les premiers candidats à obtenir la clémence d'Allah. Nous sommes les premiers à avoir gardé le mois de Ramadan. Entre les Yahoud et les Nassar et les autres Millel. Nous sommes les seuls à avoir gardé un livre intact jusqu'au Qiyam. Et nous sommes les seuls à avoir obtenu en cadeau Laylatul Qadr, que personne n'a eu avant nous. Donc, nous sommes ceux qui ont le plus de chances d'obtenir la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et Ahmad dit également que Wasamma Jalla wa Ala Nafsahu Ar-Rahman, Allah s'est donné ce titre, ce nom de Ar-Rahman, Ad-Dal Ala Si'ati Rahmati. Et cela prouve que comment Allah Azza wa Jal est clément, miséricordieux, dalun ala sifatil qa'ima bihi subhana. C'est une qualité qui est, ça c'est un terme humain intrinsèque, une qualité qui est propre et permanente à Allah Azza wa Jal. Dans un verset, c'est le hadith, je ne sais pas si je l'ai, voilà, c'est plus tard, dit que sa clémence a dépassé sa colère. C'est-à-dire que la clémence d'Allah, elle est permanente. Il y a des fois où Allah est mécontent de ses serviteurs, mais autrement, ce qui est propre à Allah Azza wa Jal et qui est propre à lui en permanence, c'est cette bonté et cette clémence envers l'ensemble de ses serviteurs, l'ensemble de ses créatures. Puis les ulama disent également qu'il y a le rahma amma et le rahma khassa. Il y a une clémence qui est générale, une clémence qui est particulière. Ça nous conforte encore plus dans notre confiance en Allah. Ça, c'est l'opinion de certains mufassirin qui disent que quand on dit Allah il est rahman, c'est une clémence qui englobe toute créature, kafir aussi. Et c'est par sa clémence qu'ils obtiennent leur subsistance. Ils peuvent manger, ils sont en bonne santé, ils ont des bienfaits, ils ont, alhamdoulilah, femme et enfant, et ainsi de suite, ils vivent dans les bienfaits. C'est parce qu'Allah est clément. Si Allah n'était pas clément envers ceux qui ne se prosternent pas devant lui, Allah n'aurait rien donné à ceux qui ne croient pas en lui. Et des fois, on se dit, oui, mais comment est-ce possible que dans tel pays, eux, ils font telle chose, mais ils ont telle chose? Parce que Allah est Rahman. Parce qu'Allah a pitié d'eux. Après, on pourrait donner d'autres sifat. Allah est sabour. Allah est patient. C'est une patience qui n'a aucun rapport avec notre patience à nous. Allah, il connaît les péchés, mais malgré ça, Allah ne les sévit pas. Allah laisse. Laisse ces personnes. Et la punition viendra après. Allah continue de les combler. Ça, c'est le sabr, Allah qui est le sabour. Donc, quand on dit que Allah est Rahman, certains ulama disent que c'est une clémence qui est générale pour l'ensemble de sa création. Et quand on dit Allah est Rahim, c'est une clémence qui est spécifique aux Ahl al-Tawhid, à ceux qui ont la ilaha illallah dans leur cœur. On connaît également, ça, c'est fait partie des hadiths de base, qu'Allah Rabbul Izza a partagé sa clémence en combien de parties? Mi'a, en 100 parties. Il y a 1% de sa clémence, on va dire une part de sa clémence qu'Allah Azza wa Jal donne aux gens de ce dunya. Et 99, il le garde pour le akhirah. Mais si on va un peu plus loin dans notre réflexion, les 99 de l'akhirah, ce sera pour qui? Pour toute la création? Abadan. Uniquement ceux qui ont la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah de leur cœur. C'est pour nous faire comprendre comment est-ce qu'Allah nous aime. Ça, c'est important. Et les ulama disent, là, on va dire qu'à la conclusion, parce que il y a l'explication, les versets, et ensuite, quel changement cette connaissance doit apporter dans notre vie? Ma yastalzim min a'mal. Qu'est-ce que cela doit provoquer en nous comme réaction? Et parmi les réactions, les savants disent en conclusion que parmi les réactions, quand tu connais comment Allah t'aime, comment est-ce que tu peux décevoir quelqu'un qui t'aime autant? Comment est-ce qu'on peut décevoir? Comment est-ce qu'on peut désobéir délibérément, sans haya, sans honte, quelqu'un qui nous donne autant de bienfaits, quelqu'un qui est autant, quelqu'un, ça c'est des termes humains, celui qui est aussi bienveillant envers nous, c'est une question même de pudeur, de haya, comment est-ce qu'on peut désobéir à Allah Azza wa Jal. Dans un autre verset, Allah Rabbul Izzah dit, c'est le verset qu'on cherchait tout à l'heure, « Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma » Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et dans un autre, ça c'est un hadith, Allah Azza wa Jal dit que Allah a interdit le zulm, il s'est interdit sur lui-même à zulm, l'oppression, et il vous interdit d'être injuste envers vous, fala tadhalamu. Les savants disent, voyez la comparaison, Allah s'est interdit sur lui-même, jamais il ne fera du mal à une personne injustement. Et dans ce verset, Allah s'est commencé kataba ala nafsihi ar-rahma, votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Donc c'est la volonté d'Allah que d'agir de cette façon envers chaque mu'min. Il dit que lorsqu'on veut, on essaie de comprendre comment est-ce qu'Allah nous aime. Le prophète sallam donne un exemple, hadith d'Abu Huraira, on dit que le prophète sallam un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un enfant. Il y avait un petit bébé dans sa main. C'était un homme. Il y a un hadith qui est une femme, là c'était un homme. Il dit que le prophète voyait cette personne, mandé, il a serré son enfant contre sa poitrine, comme nous on le fait. Quand votre enfant, le bébé pleure, on le serre contre nous, on donne de l'amour. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam atarhamuhu. Le prophète demande à cette personne, est-ce que tu as de la pitié pour lui? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as de la clémence pour lui? Qala na'am. La personne dit, bien sûr, prophète d'Allah. Fallahu, il a répondu, Fallahu arhamu bika minka bihi. Allah t'aime plus. Allah a plus de pitié pour toi que toi tu as de pitié pour ton enfant, ton bébé. Wa huwa arhamur rahimin. Et c'est le très clément, le très miséricordieux. Ça veut dire que, imaginez, subhanallah, l'amour qu'un homme ou d'un papa ou une maman a pour son bébé, c'est incomparable avec l'amour qu'Allah porte pour nous. Dites donc, quand vous allez vous prosterner dans le sujoud, dans ces nuits du Ramadan, pensez que vous êtes devant votre Seigneur qui vous aime et qui n'attend qu'un effort de votre part. Allah Azza wa Jal attend lorsqu'une personne fait un pas vers lui, Allah fait deux pas vers lui. Lorsqu'on vient vers Allah en marchant, Allah vient vers nous en courant. C'est-à-dire, Allah attend l'effort, le premier pas pour nous donner tawfiq, pour nous accepter. Donc, quand on se prosterne, quand on dit astaghfirullah, quand on dit Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, quand on fait le dhikr, quels que soient les a'mal, on doit intégrer que je suis en train de m'adresser à celui qui est arhamur rahimin. Et sans le moindre doute, Allah même et Allah va m'accepter. Et par rapport à cet amour qu'Allah a pour moi, je ne peux plus revenir vers le péché, je serai le plus grand des ingrats. Autre hadith de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il explique qu'une fois, il y a une dame qui était près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette femme a pris son bébé et elle s'est mise à allaiter son bébé. Le prophète alayhi salat wa salam, ça c'est les mamans qui comprennent lorsqu'elle a un bébé en bas âge et qu'elle est en train de donner le lait à son enfant, à ce moment le flux d'amour qu'il y a entre la maman et son enfant, ça dépasse de loin tout ce qui s'appelle amour parmi les êtres vivants. Ça c'est un amour extraordinaire d'une maman pour son bébé, cette maman qui donne du lait. Si on pouvait ouvrir des parenthèses, on n'a plus l'heure, on dirait que ce serait bien, c'est bien dommage les mamans qui décident de donner du lait, parce qu'on prive quelque chose qu'Allah nous a donné pour nos enfants. Bref, ça c'est, on peut pas se permettre ce genre de parenthèse. Mais le prophète sallam, il voit cette dame qui donne du lait, qui est en train d'allaiter, qui bien sûr qui cache son enfant sous son abaya et qui donne du lait, et il demande aux sahaba, et ça c'était un usloub de da'wa. Ça c'était ad-da'i. C'est pas juste celui qui dit, oh, il faut faire ça, il faut pas faire ça, comme nous fait Ben Moulissab, qui n'est rien crié. Le prophète parfois, ça c'est le da'wa. Ah, il y a un terme, ça, subhanallah. Il y a da'wa bil-qudwa, da'wa bil-ta'lim. Il y a la da'wa également dans le midan, dans la vie de tous les jours. Il dit, regardez cet exemple. Et à partir de ça, il vous déduit quelque chose qui est propre à Allah Azza wa Jal, pour que l'homme réalise sur le champ quelle doit être ma réaction, comment je dois reparamétrer ma vision du monde. Chaque fois, on doit reparamétrer en fonction des attentes de notre Seigneur. Le prophète du sahaba, atarawna, ils le voient tous, atarawna hadihi tarihatan waladaha finnar. Elle dit, est-ce que vous pensez une seconde que cette maman peut retirer ce bébé qui est en train de boire avec elle et le jeter dans le feu, de ce feu? Il n'y a pas de sens. Sahaba dit, ya Rasulallah, qulna wa la wa hiya taqdiru ala an tatrahahu. Elle dit, jamais au prophète d'Allah. Alors que humainement, on va dire techniquement, elle peut le faire. Elle peut prendre et jeter, elle peut le faire d'un geste. Du mais au Rasulallah, jamais ne ferait ça. Le prophète dit que l'Allahu, sachez que Allah arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Ô mes compagnons, et de cette façon, il dit également, ô musulmans jusqu'au Qiyamah, sachez qu'Allah a plus d'amour, plus de compassion, plus de pitié pour vous que cette maman a pour son bébé. Cet exemple, les savants disent que ça c'est rayatul mathal, un des exemples les plus forts que le prophète nous donne pour qu'on réalise comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs. Il y a le hadith également qu'Allah a partagé sa clémence en sang, ça on l'a dit tout à l'heure, hadith rapporté par Al-Bukhari, pour qu'on réalise que Allah a pitié de nous de ce dunya, mais on a espoir également que le jour de Qiyamah, Allah Azza wa Jal nous couvre également de sa clémence. Également, hadith Abu Huraira dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal, au début de la création, il est écrit sur le trône d'Allah Azza wa Jal, فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي, que ma clémence a dépassé ma colère. C'est que ça, comme on l'a dit en introduction, c'est une sifat, une qualité qui est propre à Allah Azza wa Jal. Dans cette religion, on vous dit, vous avez entendu, Dieu est amour. Et que dans l'islam, il n'y a pas Dieu est amour. Il y en a qui font un tirad. Il dit, il y a plein de noms, 99 noms, d'accord, mais amour est où? Mais j'ai dit que amour est mon ami. Ça c'est un mot facile, ça, amour. Mais nous on a un terme qui dépasse amour. On dit pas Dieu est amour, on dit Dieu, Allah est Rahman. On dit Allah est Rahim. On dit Allah est Wadoud. C'est sifat qu'Allah s'est attribué à lui-même. Ça c'est les qualités qui dépassent le terme humain, amour. Et ça c'est plus profond en sens que tout ce que tu peux imaginer. Que tout ce que tu peux imaginer, à un tel point que... Subhanallah, on va sauter un peu les passages. Il y avait une certaine construction dans ce qu'on devait dire, mais réel, Inch'Allah, il est dit, pour qu'on comprenne comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla est clément, Subhanallah, il dit que lorsque, on trouve ce texte, on ne veut pas dire n'importe quoi, on parle de hadith, lorsque Pharaon a été puni par Allah Azza wa Jalla, et qu'on a retrouvé lorsqu'il était en train de périr, Jibril alayhi salam est venu. Ça c'est hadith, je crois que de Mousnad Imam Ahmed. Il dit que, oh Allah, hadith qui est apporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani, rahimahullah, dit que, lamma aghraq Allahu Fir'aun, lorsqu'Allah azza wa jal a puni Pharaon et qu'il était en train de périr, qu'est-ce qu'il a dit? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Au moment où il allait mourir, il a levé la main et a dit que j'ai iman, je crois au Seigneur unique, je crois au Seigneur qui est le Seigneur des Israélites. Et là, son pardon est accepté ou non? Il n'a pas été accepté. Mais il y a un hadith, donc ce hadith qu'on va vous lire. Faqala Jibril, l'ange Gabriel, l'ange du Prophète, ya Muhammad, falaura aitani, Si tu ne savais pas, toi, si seulement tu m'avais vu à cette époque, parce que c'est à l'époque de Moussa alayhi salam, toi, ça ne pouvait pas savoir. Il dit, si tu m'avais vu, et Djibril était déjà en poste, puisque c'est Djibril, c'est sa mission. Il dit, si tu m'avais vu, oh Muhammad, wa ana akhidun min halil bahri. Et dans certains textes, on parle de terre ou de poussière, ou je ne sais pas, d'un autre terme. Si tu m'avais vu, je prenais la terre ou la poussière, je mettais dans sa bouche. فَأَدُسُّهُ فِيهِ Je rentre sur sa bouche de terre afin que ses paroles ne soient pas audibles. مَخَافَةً أَن تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةً Allah. De crainte qu'Allah ait pitié qu'il y a un de ses serviteurs qui à un moment donné dit Allah et qu'Allah accepte son retour vers lui. Je ne voulais pas. J'ai dit, j'ai rempli sa bouche de saleté, de poussière pour que ses paroles ne sortent pas, pour qu'il ne le dise pas, pour qu'il ne formule pas son tawbah. Afin que, Djibril, mais Allah il savait, oui ou non? Bien sûr, Allah est Sami' Basir. Allah il sait, Allah a organisé les choses de cette façon, avec sa sagesse, pour que nous, à notre époque, on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on réalise qu'Allah il est tellement miséricordieux, il suffit qu'il y ait une petite voix, qui vient du fin fond de l'obscurité, et qui vient, les savants, ils disent qu'Allah Akbar, ça vient de la personne qui a osé dire, ma alim tulakum min ilahin ghayri. Il a osé dire aux Israélites, il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. Je ne connais personne d'autre qui mérite d'être adoré à part moi, Pharaon. Il a osé dire ça. Il a osé dire, construisez-moi quelque chose, j'arrive là-haut, je vais en finir avec le Dieu de Moïse. Il a osé insulter Allah. Il a osé dire des paroles. Mais au moment de mourir, il y a eu cette attestation. Et l'ange Jibril a eu peur, mais Allah n'allait pas accepter. Mais il a eu peur que d'un instant, Allah accepte. Et Pharaon n'est pas en donné. Il ne voulait pas, tellement Pharaon a fait du tort de le prendre. Pourquoi il explique ça aux sahabas? Pour que chaque mu'min réalise comment est-ce qu'Allah est Rahman Rahim, comment est-ce qu'Allah est clément, miséricordieux. Et donc, la taqnatu min rahmatillah, si on peut conclure là-dessus, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Quelle que soit ma vie, j'ai 50 ans, 60 ans. L'exemple de ce vieillard qui est venu voir le prophète m'a dit que j'ai fait des choses, j'ose même pas te dire au prophète d'Allah, c'est terrible ce que j'ai fait. Et le prophète me dit, vas-y, demande tawbah, fais de bonnes actions. Allah est Rahman, Rahim, Ghafur, Rahim, pardonneur. Et les savants disent à condition, bien sûr, que la personne remplit les conditions, qu'il décide de ne plus. Ce qu'on a dit en introduction, il recommencera plus, il regrette réellement. Allah est capable de pardonner. Parce qu'Allah est Rahman, Rahim. Et ça nous permet un peu d'enchaîner avec le sifat qu'on voulait développer, qu'Allah est Ghafar, Zunoub, Ghafur, qu'Allah est pardonneur. Et miséricordieux. Le prophète alayhi salat wa sallam dit, le hadith qui est rapporté par Abu Huraira et qu'on trouve dans l'imam muslim, لو يعلم المؤمن لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. D'ici la personne qui n'a pas la foi, s'il savait comment est-ce qu'Allah est clément, miséricordieux, mais il se serait mis à rêver du Jannah aussi, même sans iman. Pour montrer, mais ça ne sera pas possible bien sûr, pour montrer comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal est clément, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Par exemple, il dit, لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَتَّكَلْتُمْ عَلَيْهَا. Si les gens ils savaient comment Allah est clément, il y aurait certaines personnes qui se seraient suffi de ça. Ils n'auraient peut-être même pas fait de bonnes actions. Mais dit qu'Allah est pardonneur. Mais ce n'est pas le cas, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est des moubalas, des paroles que le prophète donne pour qu'on comprenne de façon intensive comment est-ce qu'Allah Rabbul Izzah aime ses serviteurs et comment est-ce qu'il est conscient. Alors on a été un peu rapide sur ces deux qualités qui sont pourtant essentielles. Et en conclusion, donc les savants, les ulama disent que quand on a réalisé comment Allah est clément, miséricordieux, ben on demande à Allah d'avoir pitié de nous. Allah marhamna. Rahmatan tughnina biha an rahmatin man siwak. On doit implorer, poser ce front devant Allah et demander à Allah d'avoir pitié pour nous, de nous pardonner nos erreurs de parcours, nos péchés, nos manquements par rapport aux bonnes actions et dans cette période, faire l'intention de prendre un nouveau départ. Deuxièmement, lorsqu'on a réalisé comment Allah est clément, on doit faire le maximum de bonnes actions parce que les bonnes actions nous attirent la clémence d'Allah. On demande à Allah d'être clément avec nous. Mais après, il y a d'autres versets qui nous prouvent comment obtenir la clémence d'Allah. Parmi ces versets, وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ et d'autres versets encore qu'on n'a pas le temps de les citer. Quand on accomplit des bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal fait preuve de clémence envers nous. On veut avoir la clémence d'Allah, ben on a accompli les bonnes actions. Ça me fait comprendre également que l'iman, que notre foi, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans le cœur, c'est les actions également qui vont concrétiser. Il faut iman et amal saliha. Les deux sont essentiels. Hada. Également, celui qui veut obtenir la clémence d'Allah, et il doit suivre le Coran. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. Dans ce verset, Allah parle du Coran, dit suivez-le. وَاتَّقُوا et craignez Allah. لَعَلَّكُمْ ترحمون dans sourate l'an'am, suivez le livre et ayez la crainte d'Allah, certainement vous aurez la rahmat d'Allah. Si on veut obtenir la clémence d'Allah, on veut qu'Allah ait pitié de nous, on veut Allah, il donne, Allah est clément, mais il faut avoir cette clémence, il faut faire les actions qui nous permettent d'obtenir, pas de mériter parce qu'on ne mérite pas vraiment, qui nous permettent d'attirer cette clémence d'Allah. Et parmi ces actions, c'est suivre le Coran. Ils suivent le Coran. C'est pas uniquement que le Qari sort en Égypte, il vient, il y a en 10 et que tout le monde dit Allahu Akbar, Nari Takbir, Ya Cheikh, tu es magnifique, je t'aime. C'est pas ça. C'est tadabbur bil ayat. Suivre les versets et les mettre en application de notre vie, c'est exactement ce que les Sahaba, Ridwanullahi alayhim ajma'in, ont fait depuis le jour où ils ont dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jusqu'au jour où ils ont dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, en quittant ce dunya, sans jamais s'arrêter. Troisièmement, il y a pas mal d'actions que les savants disent Iqamatu salah, wa ita'u zakah, wa ta'atu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ça ferme un peu les portes à ceux qui disent que les dents. Tout est dans le cœur. Ne fais pas bonne action, mais tout est dans Miyam Allah, Allah Yamamoua. C'est un schéma, c'est un hadith déjà que je ne connais pas. Miyam Allah, Allah Yamamoua, ça n'existe pas. Et obtenir la proximité avec Allah, c'est croire en Allah, mais c'est accomplir de bonnes actions. Wa aqimu s-salah, wa atu zakah, wa ati'u rasoul. Il y a combien d'ordres ? Accomplissez la salah, donnez la zakah et suivez le prophète. Itiba' sunnah, la'allakum turhamoun. Avec espoir qu'Allah ait pitié de vous. On veut la rahmat d'Allah ? On a vu tout à l'heure, on suit le Coran, on prie. Est-ce que c'est écrit « وَاقِمُ الصَّلَاةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ وَاتُ الزَّكَاةِ » Non, je n'invente pas les versets. C'est accomplir la salat « أَيْ يَوْمِيًّا » Il n'y a pas « salat ramadan, salat au ramadan ». Ceux qui ont compris ça, ben, il n'a rien compris au dîn. Il faut qu'il retourne vers Allah Azza wa Jalla. Accomplissez la prière, donnez la zakat et suivez Ar-Rasoul, le prophète. La'allakum turhamoun. Peut-être vous obtiendrez la clémence d'Allah. On veut obtenir rahmat d'Allah. Voilà les actions qu'on doit accomplir. Cinquième action, al-istighfar. Laoula tastaghfirun Allah la'allakum turhamoun. Si seulement vous demandiez pardon à Allah afin que vous obteniez sa clémence. On veut obtenir la clémence d'Allah, cette clémence d'Allah qui est magnifique. On veut avoir notre nasib, notre part. Demandez istighfar. Ce soir, demain soir, après-demain, on demande tawbah, istighfar. Si on avait le temps, mais on n'a pas assez de temps. On a expliqué également que les savants, ils donnent comme conseil, hein, ça c'est pas une sunna, quand on passe les nuits ibadah, alternez vos prières avec des adhkar. Vous avez fait combien d'adhkar? 6 rakats, vous êtes fatigué. Les mal au genou, les mal au dos, les articulations, vous sentez que ça ne va pas, faites une pause. Lisez 100 fois, Astaghfirullah. Ou Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ou La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et réfléchissez. Pensons qu'on est en train de demander pardon à celui qui est pardonneur, miséricordieux et clément. Et qu'il va accepter notre pardon. Et quand je dis Astaghfirullah, je dis Wallah, maintenant c'est fini. Fini, jamais plus. Vous savez, quand les Sahaba, ils ont reçu la révélation où l'alcool a été interdit, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Intahayna, Wallah, khalas. Même s'ils ont bu, avant, c'était autorisé, avant l'islam, de Jahiliya. Quand Allah Azza wa Jal a dit Fajtanibuhu, ils ont dit Intahayna, Ya Rab, Intahayna, Ya Rab. Ça, c'est Ta'atul Mu'min. Allah décrétait que c'est pas bon, Wallah, khalas. Jamais plus, il y a Allah jusqu'à la mort. Ça, c'est les qualités du mu'min. Donc, quand on demande l'istighfar, on pense à ça. Jamais plus, il y a Allah pour ses péchés et on demande à Allah. Si on veut obtenir la clémence d'Allah durant ces nuits également, on fait beaucoup d'istighfar. La'allakum turhamoun. Hada. Également, sixième point, ad-du'a. Plus on demande du'a, plus on obtiendra la clémence d'Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'd idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Qu'on fait du'a, on demande, oh Allah, accorde-nous ta clémence, parce que c'est Allah qui donne, innaka antal wahhab. Certes, c'est toi qui es le donateur. Hada. On essaie d'aller encore un peu plus vite. Pour obtenir la clémence d'Allah, il faut avoir la crainte d'Allah de le cœur. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Très simple. Éprouvez la crainte d'Allah, vous aurez sa clémence. Si de notre cœur, et on ne va pas vous expliquer qu'est-ce qu'on dit de la taqwa, on éprouve la crainte d'Allah, automatiquement Allah aura pitié de nous. Ce cœur qui s'oriente vers Allah, même si on ne connaît pas beaucoup de choses de la religion, mais on surveille, on fait attention, on se renseigne, Moussa, ça allait bon, est-ce que ça mène à droit ? Tout ça, c'est preuve de taqwa. On ne va pas faire un pas qui va déplaire à Allah Azza wa Jal. Ben là, on ouvre les portes de la rahmah sur nous. Là, on obtient la clémence d'Allah. Vous voyez, tout ce qu'on a dit, c'est en même temps un sentiment du cœur, crainte d'Allah, éloignement du péché, en même temps des actions, prière, zakat, suivre la sunna, et de cette façon, on va obtenir, inshallah, la clémence d'Allah Azza wa Jal. Hada. Et on terminera avec un point qui est le tu as dit min akbar al asbab, parmi les meilleures façons d'obtenir la clémence d'Allah, rahmatul abdi lil khalq, ayez de la compassion pour la création d'Allah azza wa jalla. Et c'est un hadith connu Il y en a beaucoup. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui ont la pitié, de la bonté, ceux qui aiment leur prochain, Allah Rabbul Izzah va les aimer, va avoir la pitié pour eux. Irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Soyez bons, soyez gentils, soyez corrects, faites preuve de compassion pour les gens. Et Allah aura pitié de vous de la même façon. Et là, les savants disent, voyez comment notre dîn est parfait. Autant il va régir notre relation avec Allah, autant il va régir notre relation avec les êtres humains. Et quand on parle de pitié, de bienveillance, c'est avec ceux qui ont la foi, même ceux qui n'ont pas la foi. Agir correctement avec tous ceux qui ont un ruh, tous ceux qui ont un l'âme. Il y a l'âme de leur cœur, on a de la compassion pour eux. Ça c'est khalqullah, ça c'est la religion parfaite. C'est de cette façon que le mu'min se doit de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Hada. On va s'arrêter à là, inshallah. Il y a tellement de points encore, subhanallah, à voir. Vous savez, quand on parle de la clémence d'Allah, on ne pourrait jamais s'arrêter. L'aboutissement, c'est quoi l'aboutissement? Quand on a obtenu la clémence d'Allah, ben, dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit, non, dans le hadith, quoi, ça me dit, qu'Allah Azza wa Jal dit, قال الله تبارك وتعالى للجنة, Allah s'adresse au paradis, anti rahmati. أرحم بك من أشاء من عبادي. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Allah Rabbul Izzah s'adresse au paradis en disant que, ô paradis, tu es ma clémence. C'est toi ma clémence. C'est-à-dire, le paradis, ça concrétise la clémence d'Allah. Quand Allah est clément, quelle est la meilleure récompense qu'Allah peut donner quand il veut combler un serviteur? C'est de lui accorder le Jannah. أرحم بك من أشاء من عبادي. Par toi, je fais preuve de compassion. C'est grâce, en faisant accéder au Jannah mes serviteurs, c'est de cette façon que je leur accorde ma compassion. Donc on a compris, si Allah a eu pitié de nous, l'aboutissement ce sera le Jannah. Et on a vu qu'est-ce qu'on doit produire comme effort spirituel, intérieur et extérieur pour obtenir la clémence d'Allah Azza wa Jal. À nous de faire les efforts. On lève les mains devant Allah de nous accepter, d'avoir pitié de nous, de nous donner istiqama, la possibilité de rester ferme dans les bonnes actions, dans les bonnes œuvres, de nous donner la possibilité de rester éloigné tout le temps du haram jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Malik al-Maud reprend notre âme, que nous soyons dans le droit chemin. La meilleure des situations, c'est quand l'ange de la mort reprend notre âme et qu'il nous annonce qu'Allah est satisfait de nous. La pire des situations, c'est quand l'ange de la mort vient sous un aspect effrayant qui prouve que nous n'avons pas obéi aux ordres d'Allah, qu'Allah nous accepte. Qu'Allah nous donne de comprendre ces paroles et que cela pénètre nos cœurs et qu'on les transforme en actions et qu'à partir de ce jour, inshallah, chaque personne se sent responsable d'aller auprès de ses savants, de ses ulama et d'apprendre les qualités de sifat d'Allah. Cheikh Ibn Abdullah, l'intention, inshallah, de faire des durus sur les sifat d'Allah Azza wa Jal, il va le faire. Vous vous rapprochez de lui chaque jour ou chaque semaine. On doit connaître une sifat d'Allah pour mieux connaître Allah, pour mieux l'adorer, pour ressentir la puissance de l'adoration d'Allah.